Bienvenue dans Quête Latérale, épisode 7, épisode de septembre, puisqu'on est à cheval entre septembre et octobre, et on est ravis de vous retrouver sur Qualité pour parler un tout petit peu culture vidéoludique avec moi autour d'une nouvelle table fraîchement montée. Hein,
ah, si les gens pouvaient la voir.
Nouveau studio de qualité, elle est incroyable. Et auprès de ma tasse, monsieur, madame, j'ai le plaisir d'accueillir Lamua. Bonjour Lam.
Oh là là, tu m'as manqué Ken.
Ah toi aussi,
ça
tu
fait longtemps que je t'avais pas vu.
J'avoue, mais en tout cas, on se voit jamais trop de côté. D'habitude, t'en es plus face à face comme ça.
C'est vrai,
impressionnant.
Ravi d'être là en tout cas, ça va être cool encore.
Ça va être très très cool. Juste à côté de toi, c'est Fibre Tigre qui est là. Bonjour Fibre.
Bonjour Ken, je peux faire un petit mea culpa?
Oh là.
Ça commence.
Non mais je me suis souvent pas moqué, mais j'ai eu un petit sourire en coin quand j'entendais Daz ou Lam parler de leurs 1200 heures, leurs 4000 heures sur Elite 2, sur Elite, Elite Dangerous.
Ouais.
Et je viens de dépasser 800 heures sur Slay the Spire. Voilà.
Oh.
Et je suis accro, je pense.
Uniquement
que
à cause des transports en commun, on est d'accord?
Non, même pas. Il est dans ma, il est sur ma Switch chez moi. Et j'ai beau me désintoxiquer, d'essayer de lancer Zelda Breath of the Wild. Bah non, je reviens sur Slay the Spire. Allez, un petit Slay, je vais y arriver. Voilà.
C'est pas grave, Fibre, tu sais, ça n'est pas ça. Le jeu est payant. En face de toi, c'est Chloé. Bonjour Chloé.
Salut.
Comment tu vas?
Bah écoute, ça va bien. Bah vous m'avez vraiment manqué pour le coup, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
C'est vrai.
Et j'avoue, là, depuis le confinement et le déconfinement, ma notion du temps est totalement bizarre. Et bah hier, c'était l'été, il faisait beau, aujourd'hui on est en pull. Enfin, je ne sais plus quelle est la date, on est du coup en septembre.
Septembre,
ouais. Là, on sait pas trop. Donc, mais en tout cas, ouais, ça me fait très plaisir d'être parmi vous.
Il n'y a plus de saison, ma bonne, peut-être ta main, il n'y a plus de saison.
Émissions, on était en confinement chez nous.
C'est ça qui est très bizarre.
De l'eau a coulé sous les ponts. Pourtant, juste à côté de toi, on n'est pas dans Commute, mais il est quand même là. C'est
Daz,
hein.
Et oui, j'ai encore trouvé un micro et j'ai vu la lumière allumée, donc je me suis invité dans cette émission, bien sûr. Bonjour Ken, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être là, effectivement.
Plaisir de t'accueillir. Évidemment, ici, 4 chroniques et 3 pauses. On a un gros, gros programme, évidemment, dans ce quête latéral. On va commencer tout de suite avec la première chronique. C'est Fibrotique qui va nous parler des cases dans lesquelles il faut ranger ou non les jeux vidéo. Alors, Fibutrick, depuis que j'ai vu tous les épisodes de Marie Kondo, j'adore ranger. Mais est-ce que j'ai raison?
Alors oui, la chronique s'appelle « Faut-il ranger les jeux dans des cases ?» Et à la lecture du titre ou à l'écoute du titre, ben, vous avez envie de dire non, bien sûr, parce que nous, les Français, on est épris de liberté. On sent que, évidemment, il y a un piège dans la chronique. Et pourtant, on va essayer de creuser cette idée parce que on va voir si le fait de ranger des jeux dans des petites cases, c'est plutôt utile ou délétère, ou est-ce qu'il y a même une troisième voie. Quand je dis des cases, c'est dire, par exemple, tiens, ce jeu, c'est un FPS. Tiens, ce jeu, c'est un jeu de plateforme. Voilà. Donc, je vais commencer par un mini-quiz. Tout le monde peut jouer, même notre animateur. Alors, Dune 2, c'est quoi?
Dune 2?
Dune 2.
Un jeu de stratégie.
RTS. Ouais, stratégie. Ouais.
Bravo.
Un peu stratégie, en temps réel.
Si ah ouais, mais tu rentres dans une plus petite case que moi.
RTS. Ouais, non, mais c'est ça. Il faut choisir la bonne case. C'est le pionnier du RTS. Alors, ça monte en difficulté, hein, je vous dis.
Oula.
Halo, c'est quoi?
Un FPS.
Un FPS.
Ouais, un peu court, jeune homme. Est-ce qu'on peut dire un peu mieux que FPS ou
un
pas?
Un FPS très lent. Un FPS dans l'eau. Ouais.
Un jeu d'aventure à la première personne.
Bon, c'est un FPS open world. Enfin, non. Il y a des grandes arènes quand même. Non, mais oui. Par contre, on disait que c'est le premier FPS avec un gameplay émergent.
Ah émergent.
Bon, je sais pas si vous vous souvenez.
C'était un FPS dont la résolution des niveaux n'était pas linéaire du tout. C'était open, mais après, le jeu n'est pas un open world.
Hmm. Ah oui, d'accord.
L'enchaînement des niveaux est linéaire. Mais les niveaux et les arènes de combat étaient géniales à l'époque parce que tu avais l'impression que tu pouvais courir sur 800 mètres carrés. Te mettre en haut d'une montagne, te cacher sur un truc, etc.
Dead Cells.
Roguelite.
C'est tout, juste un roguelite?
Pour moi, c'est un
parce
jeu...
Parce que Slay the Spire, c'est aussi un roguelite.
Un jeu de dés un peu rétro qui casse les couilles.
On peut dire que c'est
comment
un...
Comment ça, qui casse les couilles?
Comment ça?
J'ai jamais joué.
On peut dire que c'est un indé roguelite.
Non, c'est un action platformer.
Action platformer
roguelite. Voilà.
Voilà. Donc un Metroidvania, par exemple.
En fait, la partie Metroidvania, elle dure à peu près 10% du jeu.
D'accord.
Ok, on step up the game. Untitled Goose Game, dont on a parlé.
Simulateur de doigts.
Point and click, tu vois. Il y a des gens qui disent même, comment dire, un jeu d'infiltration. Voilà, MGS.
Ah ouais.
Lemmings, ça vous rappelle ouais. quelque chose?
Ah,
c'est quoi?
Lemmings, c'est quoi, tiens?
C'est un jeu de réflexion pour moi, c'est un puzzle
ouais,
game.
C'est un puzzle game.
Ouais, mais un puzzle game, il n'y a pas de temps réel normalement. Ouais. Là, il y a un temps réel qui rentre en jeu. Ouais. Tu dois prendre des ordres avant que les mecs ils tombent de l'escalier.
N'importe quoi dans Tetris, c'est en temps réel, qu'est-ce que tu dis?
C'est un puzzle game, ouais. Tetris?
Bah, évidemment.
Bah, bien sûr.
C'est un Tetris-like.
Tetris.
Ah, Tetris, c'est un Tetris, c'est un puzzle game e-sport, c'est ça?
T'en vas s'embrouiller direct.
Bah ouais, c'est un puzzle. Un puzzle, c'est pas un jeu en temps réel. Un puzzle.
Tetris, c'est un casse-brique.
Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non. Ça c'est Arkanoid, le casse-brique. Tetris, c'est les.
C'est un casse-brique à l'envers.
Tu casses des briques dans Tetris.
Alors là, les gens, ils vont nous écrire. Hein.
C'est un forme. C'est un forme de. Une forme de casse-brique.
Attends, les.
Roguelike, parce que quand tu perds, tu recommences du tout début.
Non, mais les mines, en fait, c'est pas. C'est. Ça serait pas un puzzle au sens où l'ami l'entend, mais ça serait oui, clairement, un jeu de réflexion.
Mais d'action.
Action-réflexion, ça existe.
Parce que, bah, justement, c'est ça. C'est
comment,
ça, j'essaie de vous faire venir, de faire émerger le constat.
Il
n'y
a, hein. a pas d'action dans les mix, ils jouent tout seuls le jeu.
Non, tu peux leur donner un Lemmings de dire stop.
Ouais, stop. Construit, creuse.
Le jeu joue pas tout seul. T'as juste des Lemmings qui vont tout droit dans un truc et toi tu fais tout le reste.
Mais tu joues pas les Lemmings, toi t'es dieu dans Lemmings.
Oui, mais n'empêche
c'est
que.
Pas
ah, ça peut, être, un god game.
Les Lemmings, ça aurait été des boules roulantes, ça aurait été la même chose en fait. C'est littéralement un truc qui avance et c'est tout.
Tout alors,
après, tu lui mets des stops, tu lui mets des montées, des descentes.
Mais t'as les réponses à ces questions?
Non,
ou tu vas nous laisser énerver sur nos propres.
Et attendez, j'en ai un très bon.
Les meilleurs quiz de la Terre.
J'en ai un très bon. Pokémon, c'est quoi?
C'est un JRPG.
Pourquoi un JRPG?
Hein,
c'est un jeu de cartes.
C'est un collectible.
Non, c'est un JRPG.
Ouais, pour moi, c'est un RPG aussi.
Non, mais pourquoi
c'est quand un truc où
Sacha il monte en niveau.
Bah, si j'ai les Pokémon, c'est
ah bah, les créatures, oui, mais pas le jeu.
C'est un peu lancer des gachas, je suis désolé. Hein. Il faut aussi dégoter les bonnes créatures, les looter. C'est pas les persos qu'on te donne et que tu vas leveler. C'est aussi ce que tu vas trouver. Plus ou moins rare, avec plus ou moins bien né, etc. Donc il y a toute une grosse partie.
Il y a des potions, des HP, des MP, des combats autour par tour, c'est un JRPG.
Ouais, mais normalement, le truc du RPG, c'est quand même de leveler ton personnage. Là, tu ne levelles jamais ton personnage.
Tu
levelles ses minions. Bah oui, mais donc.
Le perso que tu joues, c'est l'avatar.
Parce que le héros, il se bat pas.
Bah oui, mais c'est lui que tu diriges tout le temps dans le monde. Tu diriges pas Pikachu.
Alors, bah si, tu diriges Pikachu dans Pokémon Jaune. Il est derrière toi. Mais
ouais.
Tu peux très bien penser. Bah si, tu peux très bien. Ah là,
en fait, je vais les laisser. Hein.
Première foire d'empoigne.
Alors, tu peux complètement considérer que c'est Pikachu que tu diriges et qui pousse Sacha.
Oh mais quelle mauvaise foi.
La mauvaise foi.
Mais joue comme ça, Pokémon Jaune, ça marche.
Mais quelle mauvaise foi. Non, mais jouer à n'importe quel jeu de mauvaise foi, tout marche.
C'est vrai.
Et dans Super Monaco Grand Prix, en fait, tu tires la route.
C'est la route.
Tu tires la route sous la voiture.
C'est la route que tu bouge tout à fait.
Bon, alors on a parlé hein, de quelques catégories comme FPS, comme JRPG, mais à quoi elles servent ces catégories? Bon, tout d'abord, elles servent aux journalistes et au marketing, enfin plus précisément, elles servent surtout aux journalistes, donc au marketing. Parce qu'en fait, les journalistes, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer
merci
à votre jeu.
Merci pour le lien évident.
Ouais,
merci pour le respect de notre propos.
Alors,
ça dépend de quel journaliste on parle, de quelle publication.
Moi, je vais en dire plus. Vous me dites si je tombe à côté de la plaque. Mais les journalistes, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à votre jeu quand vous êtes développeur de jeu. Et il est essentiel qu'ils le comprennent rapidement. S'ils n'ont pas la surface intellectuelle, si t'es pas genre le next-gen ou si tu ne les as pas, on va dire, conviés à un événement spécial. Donc, il est censé qu'ils comprennent rapidement. La communication avec les journalistes, souvent, moi j'ai vu, c'est un X avec le twist suivant. C'est un FPS et on peut marcher sur les murs. Voilà. Donc, et c'est comme ça. Et souvent, c'est restitué comme ça. C'est-à-dire, c'est la tagline qui va faire que le jeu va se vendre et tout.
Excuse-moi, c'est aussi ce qu'on apprend entre guillemets aux développeurs indés, toi, pour pitcher leur jeu aux
éditeurs.
C'est genre tu résumes en une phrase, quoi.
Exactement. Donc le marketing, il fait rentrer des jeux, parfois d'ailleurs en les rabotant un petit peu dans des cases qui datent d'il y a 20 ans, 30 ans, sans vraiment évoluer. Par exemple, le RTS, depuis Dune 2, c'est toujours plus ou moins la même chose. Elles permettent aussi de contenter les joueurs et d'avoir une stratégie angle mort. Donc la stratégie d'angle mort, c'est une technique commerciale qui consiste à travailler des communautés qui sont associées à des genres qui sont peu nourris. Par exemple, l'idée, c'est qu'il y a toujours un nombre de gens constants qui jouent à des simulateurs, à des hack and slash, à des RTS. Et s'il n'y a pas beaucoup de jeux de bonnes factures en ce moment qui sortent en RTS. Par exemple, les fans de StarCraft 2, s'il n'y a pas de bon RTS qui sort maintenant, s'il y a un bon RTS qui sort maintenant, ils vont se jeter dessus parce qu'ils ont besoin de ça. Et le RTS, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'était le cas un petit peu, le succès, par exemple, d'un jeu français qui s'appelle Northgrade, qui est très bon. En fait, le grand succès de ce jeu, il est aussi dû au fait qu'il y avait une pénurie de ce type de jeu sur le marché. Et ces histoires de cases, elles sont utiles. Il y a une autre stratégie un petit peu plus grossière et un peu moins utile, c'est qu'il y a des cases à la mode. Et ben en fait, quand vous mettez votre jeu dans la case Battle Royale, ben quand c'est la mode des Battle Royale, les gens se jettent dessus comme s'ils n'avaient pas de cerveau, tu vois.
Il faut quand même que ça en soit vraiment...
Ben, on va en parler. Ah. Mais par exemple, alors, tiens, un autre exemple qui va bien pour ta remarque. À un moment, c'était la mode des jeux indés. Aujourd'hui, dire que ton jeu est indé, ça va pas le faire vendre. Mais à un moment, à partir de 2008, quand t'étais un jeu indé, on t'achetait juste parce que c'était juste pour dire, ben moi j'ai un jeu, moi j'achète des jeux indés, tu vois. Et il y a par exemple Ubisoft, par exemple, ils ont commencé à développer des jeux indés comme Valiant Hearts, par exemple. Ils ont dit, nous on a un studio de jeux indés et c'était Ubisoft derrière. C'est quand même très compliqué, mais la stratégie elle était commerciale. Et donc, ce sont des mots qui permettent d'exciter ou d'anesthésier un marché suivant que la mode est vivante ou morte. Du coup, d'ailleurs, je pense que là, tu nous parleras un petit peu des jeux procéduraux. Du coup, ces catégories, elles débordent sur la vie des créateurs. Certains auteurs de jeux vidéo, ils aiment bien faire un peu de tout. Ils disent, moi, bah, dans ma vie, j'ai fait du RTS, j'ai fait de l'action, j'ai fait de la plateforme. Et c'est bon pour un CV d'avoir travaillé dans plusieurs types de cases, ou au contraire, d'être ultra spécialisé. Dans le développeur de jeux, il y a les gens qui sont spécialisés 4X. Et je peux vous dire, c'est un métier dans le métier. Les 4X, ouais. C'est des gens, c'est les comptables du game designer. Ils travaillent sur des vraiment, c'est... Et le 4X, alors, on pourrait en parler, mais je dis un truc ultra subjectif. Moi, je trouve ça super chiant. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on aime parce que c'est un 4X et que le genre est ultra perfectible, mais on n'ose pas sortir de la case. Mais ça, on pourra en parler, c'est un débat en soi.
Les goûts, les couleurs.
Voilà. Et il y a aussi des jeux qui n'ont pas de catégorie. Et ces jeux...
Vas-y, balance un jeu sans catégorie.
Quel jeu pas de...
Alors, c'est des...
Katamari d'Amessi.
C'est les milliers de jeux étranges, hybrides, inconnus, dont on ne connaîtra, vous et moi, jamais l'existence, et qui hantent Itch.io, voilà, parce qu'on n'en parle pas beaucoup.
Moi, c'est des jeux Itch.io, du coup.
Moi, par exemple...
Mais tu peux courir sur les murs.
Ah oui, c'est vrai, ok.
On va parler des courir sur les murs aussi, mais moi, par exemple, il y a une catégorie de jeux que j'ai étudié à un moment, qui s'appelait les Towler, donc T-O-W-L-R. C'est des jeux dont le but est de comprendre l'objectif. C'est des jeux abstraits, tu sais pas ce qu'il faut faire, et en fait, quand tu as compris ce qu'il faut faire, tu le fais facilement. Voilà.
D'accord.
Mais c'est, ouais, c'est une typologie de jeu. Enfin, il y a des jeux comme
C'est des casse-têtes, ça, en fait.
Tu pourrais dire que c'est un casse-tête, mais enfin, il y a des jeux, expérimentaux qui n'ont pas de cases, et ils se permettent de faire ça. Et puis, il y a aussi des jeux très gros qui définissent un nouveau genre. Par exemple, on dit Doom-like. Pour les jeux qui ressemblent un petit peu à Doom.
On disait
ça. Et oui, parce que le marketing...
On commence à redire maintenant.
Ouais. Ah ouais ?
Ouais, parce que t'as le retour des
Doom est revenu.
FPS et derrière Doom, t'as les Shadow Warrior et tout, et on recommence à dire des Doom-like.
On peut dire aussi Pokémon-like. Mais le marketing, il déteste ça parce que ça consiste à parler de ton jeu tout en citant le concurrent.
Tout à fait.
Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et de façon un petit peu intéressante et un peu unique d'ailleurs dans l'histoire, le Battle Royale, qui était une mode vraiment très violente puisqu'elle arrivait d'un coup, en fait, elle est issue du monde du manga, ce qui n'existe pas trop. Yes. C'est assez unique dans le jeu vidéo. Et il y a des catégories un petit peu confuses. Un conspirationniste pourrait penser que c'est de la manipulation ou du mensonge, mais qu'est-ce que le marketing sinon ça ? Façon pub de jeux mobiles, vous savez, ces pubs de jeux mobiles qui ont l'air un peu sexy, vous cliquez, le jeu n'a rien à voir. Je sais pas si vous avez eu ça. Et donc,
ça veut dire que tu cliques, toi.
Ah bah, tu cliques, non, mais même j'ai vu des jeux où ils disent c'est le jeu de la pub mobile qui est donné sur un mauvais jeu, quoi. C'est un délire, mais je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des trucs incroyables. Mais donc, c'est des pubs mobiles, des fausses pubs pour faire acheter un jeu qui n'est pas dans le genre prétendu. Mais allez expliquer à un novice, quelqu'un qui écoute Quête Latérale, qui connaît pas les jeux, la différence entre JRPG, TRPG, RPG occidental. Child of Light de Ubisoft, vous le mettez où? C'est un jeu occidental.
C'est pas un RPG, ça.
C'est un JRPG.
Si, c'est un JRPG. Si.
Ah, je confonds avec.
Child of Light, c'est un JRPG.
C'est comment Ubisoft, un platformer tout beau et onirique, là.
Mais c'est ça, c'est Child of Light.
Mais comment tu peux faire
un jeu de rôle?
C'est un JRPG.
Mais comment tu fais un JRPG si t'es un studio européen? Je comprends pas.
Et bah, c'est des combats autour par tour.
Ça, c'est un genre, le JRPG. C'est pas le lieu d'où.
Ah, bah, pour moi, il fallait que ça soit quand même fait par des studios japonais, non?
Non, c'est un genre.
Parce que le fait que ça soit JRPG, c'est quoi qui est spécifique à part que t'as toute la culture qui va avec.
Et bah, c'est ça.
Avec ces studios-là.
La plupart du c'est des jeux au tour par tour avec une composante RPG très limitée. La plupart du temps, c'est des personnages que tu crées pas,
ouais.
Voilà, et dont tu t'inspires de l'histoire, tu vois. Concernant, oui. Enfin,
t'as pas créé une fiche de personnage.
Ouais, d'accord, genre, okay.
T'as rien qui est résolu à part les combats, tu vois. T'as pas une ouverture de porte ou un jet de.
Voilà. Et elle expliquait que Child of Light, donc de Ubisoft, qui n'est pas du tout ressemble pas du tout à une production japonaise. Oui, oui, c'est bien un JRPG et pas du tout un RPG occidental. Mais bon, voilà.
Donc ça, ça veut dire que les JRPG, on pourrait appeler ça des RPG simplets.
Ouais, c'est un
sans
peu,
offenser qui que ce soit.
C'est compliqué quand même.
Bah non, bah c'est vrai, c'est ça.
Bah par rapport à un futur Baldur's Gate qui arrive,
ouais,
c'est
voilà,
plus
c'est
simple.
Ouais.
Ou alors
simplifié. Simplet, c'est dur, mais simplifié, c'est
simplifié,
plus
ouais.
Si tu
okay.
veux pas avoir une connotation
okay.
un peu
ouais,
péjorative,
ouais, tu n'insultes ton personne.
Un RPG rigolo. Voilà. mettre opposition au RPG chiant.
Ouais, ok. Donc
Divinity,
ça, c'est pas du tout.
Divinity 2, c'est très rigolo.
Non.
Si.
Bon, okay, non, mais je comprends, tu offenses personne.
Allez expliquer à quelqu'un ce qu'est un jeu d'aventure. Tous les RPG pourraient être qualifiés de jeu d'aventure.
Ça,
tiens, Ken, par exemple, un jeu que toi et moi, on a bien aimé, The Tourist,
tout
avec
à fait,
un Y.
Tout à fait.
Est-ce que c'est un jeu open world, un puzzle, un platformer, un jeu d'aventure, un jeu narratif?
C'est un platformer.
Ah, parce que la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit c'est un puzzle game.
Oui, c'est un platformer avec des composantes puzzle game, mais
voilà.
T'as jamais joué à Goof Troop ou à Solstice ou...
Mais en fait, c'est un peu de tout, c'est ça le truc, c'est que c'est pas... Il tombe dans plein de cases.
Oui, ça c'est vrai.
Alors, voici ma position, mais légère, j'ai ouvert au débat. Moi, je pense que les catégorisations sont, comme les notes qu'on donne à un jeu d'ailleurs, comme la façon dont on review les jeux de façon ordinaire, standard, sont des outils qui sont imprécis et qui nous ont été imposés d'une certaine façon par ceux qui veulent vendre des jeux. Et... je ne suis pas certain que ce soit bon pour les jeux et pour les joueurs. Déjà, côté joueur, ça restreint les joueurs à découvrir de nouveaux jeux. Si ta démarche intellectuelle, c'est de dire bah, « moi, je joue qu'au hack and slash, hein, je fais un petit dédicace à ma femme », ben ouais, non seulement tu ne vas pas jouer à d'autres jeux, mais en plus, tu vas passer à côté des jeux que tu aurais pu aimer. Alors là, tu me dis « mais je t'emmerde, Fibre, moi, j'aime les hack and slash et rien d'autre ». Ok.
Hack
and slash.
Hack and slash.
Hack and slash.
Moi j'ai entendu hack and slash. J'ai vu déjà le manque d'objectivité de Fibre.
Non, hack and slash et rien d'autre. Bah oui, mais quand on creuse,
tu l'as redit.
Il est fort possible que tu n'aimes pas, par exemple, les ancêtres du hack and slash comme NetHack ou Rogue qui étaient en tour par tour. Et que tu aimes, sans le savoir, d'autres jeux.
Là, tu parles à ta femme, là, quand tu fais ton...
Non,
t'es encore dans ton dialogue avec ta femme.
Je fais aux gens qui d'accord. n'aiment pas le cassage. Ou, okay. ou par exemple, des gens qui disent tu sais, j'aime tout sauf le rap, j'aime tout sauf le versus fighting. Mais alors, ok, quel jeu je pourrais aimer si je te dis que j'aime que le hack and slash? Eh bien, Mathieu Triclot, c'est un chercheur français qui s'est amusé à faire de nouvelles catégories de jeux vidéo. Il a dit, on oublie tout. On oublie le FPS,
cool.
on oublie
bien.
Le RTS.
C'est cool.
Et on va associer les jeux en fonction de la fréquence et du type des inputs. C'est-à-dire qu'on prend un joueur de versus fighting, on note toutes les notes, les touches qu'ils font dans le temps, on prend un joueur de hack and slash et on met les jeux ensemble.
Les APM.
Avec son système, les amateurs de hack and slash sont assez proches des jeux de danse et proches des jeux de baston.
J'aime les trois.
Ouais, bah,
les amateurs de Pokémon aiment les point and click. Ce qui n'est pas un système, alors ce n'est pas un système plus performant, mais il nous met face à cette idée absurde qui est de dire qu'il y a un univers entre versus fighting et jeux de danse, par exemple, comme Just Dance, et peut-être c'est très proche. Et peut-être, quand on fait une convention de versus fighting, peut-être on pourrait mettre des jeux de danse dedans.
Ouais, mais enfin là, ça veut dire
versus que fighting, quand tu ouvres la garde, c'est un rhythm game. Hein.
Ça marche déjà, ouais.
Non, mais par contre, ça veut dire que tu peux kiffer Guitar Hero ou DDR et tu te retrouves à jouer à StarCraft 2, c'est quoi le...
Alors,
parce qu'il y a le même nombre
versus fighting, non, j'ai pas parlé de RTS. Versus fighting, c'est... alors ça, je sais pas. Pour le DRTS.
En tout cas, les gens qui jouent à très haut niveau... avec des gros, où les APM sont très importants,
ouais.
notamment quand tu joues à un hack and slash ou un MMO à très haut niveau, quand tu joues en RTS à très haut niveau, t'as des phases qui ressemblent à de l'exécution avec de la mémoire musculaire que des gens adorent, qui appartient au rhythm game, qui appartient au jeu de baston. Quand tu apprends à...
Oui, notamment... mais dans l'autre sens. Si toi, par exemple, tu n'as fait que des Guitar Hero, DJ Hero et Dance Dance Revolution ou des trucs comme ça, et que tu t'essaies toi de te mettre sur un hack and slash ultra énervé ou un RTS type StarCraft, est-ce que fait de binder ça à ton nombre d'actions par minute, est-ce que c'est suffisant pour te dire tu vas t'en
c'est
sortir
pas la, ou... C'est pas l'action par minute, c'est que t'as une intensité, effectivement, et je pense qu'il y a des gens qui aiment des intensités et t'en as qui aiment peut-être moins des intensités, ou alors des fois t'aimes des moments d'intensité comme si t'écoutes un moment slow et un moment t'écoutes du death metal, mais effectivement je pense que moi qui ai beaucoup joué à des RTS, qui ai beaucoup joué à des jeux de baston, qui ai beaucoup joué à des rhythm games, le moment où tu rentres dans la pure mémoire musculaire, c'est le genre de truc que je cherche dans beaucoup de jeux vidéo, que j'aime beaucoup, quoi.
Et là,
pas tout le monde, mais je comprends, voilà. C'est assez intéressant comme classification.
Et en fait, ça nous permet aussi de nous poser et de nous dire tiens, j'ai jamais joué à Just Dance parce que moi, je sais pas, j'aime les jeux de bonhomme. Et en fait, c'est un jeu qui peut avoir un challenge aussi fort même plus et me apporte autant de plaisir.
Ouais. Voilà. Bah, physiquement, physique, oui, plus. Ouais.
Ouais. Oui, largement. Même DDR, c'est la violence.
Ouais, ouais. Sauf que je m'insurge. Ouais. Puisque dans Just Dance, il n'y a pas d'APM, en fait.
Oui, c'est vrai. Il faudrait plutôt dire DDR.
Ouais, il a zéro input dans Just Dance. Oui, oui. C'est que du motion.
Moi,
mais il faut quand même le faire en rythme.
Ceux qui travaillent,
c'est que du motion.
Je connais pas trop les détails, mais il fait ça avec les touches, les types de touches et la fréquence des touches. Voilà.
Mais du coup, faut pas parler de Just Dance.
Faut pas Just Dance,
c'est Dance Revolution alors.
Oui. Ouais. Et ça marche.
Alors, ça c'était côté joueur. Côté créateur. Déjà, il y a des jeunes créateurs. En fait, moi, c'est un peu un drame parce que les jeunes créateurs, ils se lèvent le matin et ils disent tiens, je vais faire un jeu et ce sera un FPS dans lequel on peut marcher sur les murs. Tu vois. Et en fait, ça diminue beaucoup la capacité créatrice parce qu'en fait, la démarche saine, ça doit être tiens, j'ai envie de faire un simulateur d'araignée, tu vois. Où t'es une araignée et tu te retrouves à faire un FPS qui marche sur les murs, mais aussi d'autres trucs. Donc ça, c'est effectivement, si vous dites on a 1000 jeux par jour, mais ils se ressemblent beaucoup, c'est aussi un peu à cause de ça, parce que on est déjà pré-sélectionné chez nous. Ensuite, côté grand créateur ou moyen créateur, on va dire, c'est encore pire, parce que t'as des game designers qui vont pitcher un jeu à un producteur, qui va lui-même pitcher un jeu au financier. Et moi, ça m'est arrivé de pitcher des jeux à Mickaël, mon associé Miklo, il m'a dit je comprends rien. Enfin, ça passera jamais. Impossible qu'on ait un financement avec ça. T'es sur une autre planète. Donc, parfois, quand il y a la confiance et il dit OK, le jeu est bien, mais je peux pas le présenter comme ça, on se retrouve à mentir en fait aux gens, à mentir et même à mentir au public. C'est-à-dire nous, Sigma Theory, on l'a pitché comme un civilisation casual pour le vendre en deux mots, mais c'est pas du tout ça. Mais voilà, ça ressemble un peu. Donc il y a ce côté, on est obligé de faire entrer le jeu dans des cases, à la fois pour le vendre aux joueurs, mais aussi pour Steam. Je vais en parler des tags Steam. Et je voulais aussi parler du jeu d'aventure. Alors le jeu d'aventure, ça vient, en fait, le point and click, les âges d'or du point and click, donc 91 jusqu'à 98, surtout les LucasArts, on avait Monkey Island, dont il y a les 30 ans cette année, donc des pirates, des archéologues, Grim Fandango, on fait un grand voyage, on va dans l'espace. Et en fait, on a associé le point and click au jeu d'aventure. Jamais on serait dit, tiens, je vais faire un point and click sur un comptable. Et pourtant, il y a eu Paper Please, qui est un point and click dans lequel on a un fonctionnaire qui vérifie des passeports vendus. Ce jeu a été vendu à 1 million d'exemplaires. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand dans notre tête, on a des genres qui sont trop codifiés, on n'arrive pas à imaginer que des jeux puissent être amusants, plébiscités par le public. Et nous, joueurs, on est pénalisés parce qu'on ne peut pas avoir ce type de jeu, parce qu'il y a des modes qui flottent dans l'air, en quelque sorte. Et j'ai un exemple inversé, parce que la machine marketing peut se retourner contre les jeux. Pour moi, par exemple, Elle est Noire. Quand vous regardez Elle est Noire de Rockstar, vous dites, tiens, c'est un jeu Rockstar. C'est un open world dans une Los Angeles parfaitement réalisée, dans lequel t'es un flic et t'as des courses-poursuites de voitures. Dans ta tête, tu dis, OK, c'est GTA 1940. GTA. Ouais. Et en fait, pas du tout. C'est un jeu d'enquête. Et même, quand j'y ai joué, j'ai dit, c'est génial, le point and click revient. C'est du point and click, en fait. C'est du jeu d'aventure à l'ancienne. Et je pense que un des échecs, parce que Lenore, ça n'a pas été GTA.
Bah, ça a bien marché.
Ça n'a pas eu le même impact.
Ouais. Ils l'ont peut-être pas refait six fois sur six consoles différentes aussi.
Si, ils l'ont refait en...
Ouais, ils l'ont fait deux fois.
Mais il n'y aura probablement pas de L.A. Noire 2. Du coup, il n'y a pas eu The Agents. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Rockstar voulait faire un L.A. Noire qui se passait pendant la guerre froide où on était un agent secret. Mais aussi parce que, en fait, on est
captif du GTA.
Voilà, les gens qui adoraient le point and click, ils ont dit mais jamais je jouerai à GTA, et les gens qui jouaient à GTA ont été super déçus. Voilà. Alors que ça aurait pu amorcer une autre chose. Et je vais aller encore plus loin, mais on ne se doute pas du processus de création des jeux qui fonctionne aujourd'hui beaucoup en reverse marketing. Donc c'est-à-dire que en gros, on fait une pub d'un jeu qui n'existe pas. Ça arrive. Et on voit les pubs qui marchent le mieux. On fait plein de pubs avec plein de jeux qui n'existent pas. Et à un moment, on dit, tiens, ce jeu, les gens cliquent plus sur cette pub, on va faire ce jeu-là. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que quand quelqu'un chez Microsoft pond le mot émergence, comme il y a eu pour Halo, où on dit, tiens, il y a un Battle Royale, tout d'un coup, il y a toute une séquence, toute une industrie qui se met en branle, qui dit, OK, il faut faire du Battle Royale, on n'a pas le choix. Fortnite n'était pas un Battle Royale à la base. Fortnite, il a changé de cap au dernier moment et il est devenu Fortnite. Donc c'est des petits mots, mais qui ont d'énormes conséquences.
Mais d'ailleurs, c'était quoi Fortnite à la base? Le style de jeu de Fortnite, c'était quoi?
C'était un jeu de construction. Enfin, en gros,
DPS, builder.
C'était un truc collaboratif.
C'était
en gros,
un tower defense.
Tower defense, ouais. En gros, t'avais des vagues de zombies et il fallait construire. T'as toujours ce truc construction dans le Save the... Save the World.
Ah, c'est plus que ça, hein. C'était un TPS parce que c'était pas qu'un Tower Defense que tu devais aussi jouer. C'était Orc Must Die coopératif avec des construits.
Et ils ont rajouté le mode Battle Royale, mais à toute fin.
Alors, j'arrive à la fin, hein, je vous soulage. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à se séparer de ces catégories pour avoir un écosystème meilleur pour les joueurs et les créateurs? Ben, ça n'arrivera pas parce que la grosse majorité de l'industrie, les créateurs de jeux vidéo, sont pas intéressés par ça. Pourquoi ? Parce que le système, il est établi. Et aujourd'hui, les créateurs de jeux vidéo, ils exploitent très bien Steam. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Et ça fonctionne par catégorie. Donc en fait, les gens profitent de ce système. Les gens qui fabriquent les jeux vidéo, qui seraient même de changer, en fait, ils en profitent. Donc jamais ils changeront. Par contre, est-ce qu'on peut, je me tourne vers toi, Chloé, et toi, Lame, est-ce qu'on peut imaginer des bonnes pratiques de l'industrie critique, hein, des journalistes, qui iraient de pair avec le retrait de la note, comme on a vu dans Le Monde, ou cette idée de, tiens, et si on critiquait un jeu comme un film et pas comme une voiture, c'est aujourd'hui encore un petit peu le cas, parce qu'on parle d'aspect technique du film, du jeu, on parle de...
Combien ça m'a coûté pour combien d'heures ?
Voilà, exactement, exactement. Et là, je vais être un petit peu déçu, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses à faire et j'en ai pas. C'est-à-dire que c'est un problème que j'ai constaté depuis longtemps. J'aimerais m'en séparer, mais c'est bien pratique ces petites cases aussi. Et j'ai pas de solution. Mais je me tourne vers vous et j'espère que vous aurez peut-être des propositions. Et je me tourne aussi vers nos auditeurs. Peut-être ils en auront aussi.
Voilà. Alors, Chloé.
Ouais, en fait, ta chronique, ça m'a inspiré deux choses. La première, c'est que moi, quand je dois écrire autour d'un jeu vidéo, alors ça, maintenant, je fais quasiment plus de tests. Mais toi, quand j'écris un article autour d'un GTA ou d'un FIFA ou de n'importe quoi, il va quand même falloir que je le qualifie. Dire c'est quoi ce jeu, genre en un mot, en une phrase. Donc ça va être un jeu de sport, un jeu de combat, un jeu de tir, un jeu de guerre. Mais par contre, je peux pas, tu vois, dès que je commence à dire un jeu de plateforme, on me dit
tu comprends pas ce que ça veut dire. Tu peux classifier que par thématique, et pas par gameplay.
Des métacatégories.
Par gameplay, c'est impossible. Tu vois, genre, je peux pas écrire FPS, c'est impossible. Oui. Donc je vais dire c'est un jeu de tir. Ou c'est un jeu de guerre, si c'est effectivement un jeu militariste, type Call of Duty.
Mario, par exemple, c'est quoi, alors ?
Je pourrais... Des fois, j'écris jeu de plateforme, mais je sais qu'en face, on me dit...
C'est un jeu d'aventure,
Mario.
Jeu de
plateforme,
on
comprend pas ce que ça veut dire. Ou c'est vrai que Mario, les gens comprennent.
Tu dis c'est Mario.
Tu dis, écoute, Eric, grandis un peu, quoi. Viens avec ton temps.
Mais ce qui fait que, tu vois, je ne peux pas écrire, c'est un RTS. Alors, pareil, les jeux de rôle, c'est toujours une galère sans nom. Ouais. Donc, généralement, on met, c'est un jeu de rôle japonais, entre parenthèses, JRPG. Mais ça, je le précise juste sur le web, parce que sur le papier, enfin, dans le journal papier, c'est même pas la peine de rentrer dans ces détails. Mais donc, tu vois, enfin... En tout cas, en presse généraliste, on a aussi cette contrainte qui peut-être aussi ne l'est pas. On ne peut pas totalement rentrer dans ces cases-là quand on définit un jeu, parce qu'en face, le lecteur, il n'est pas expert du gaming et il ne va pas comprendre. Si
tu peux dire, par exemple, c'est un ovni vidéoludique et comme ça marche sur absolument tous les jeux. Et voilà.
Tu vois, pareil, un jeu de stratégie, ça va, les gens comprennent. Un jeu tactique, ok. Mais toi, dès qu'on rentre vraiment dans les cases,
un Metroidvania,
un roguelite, tout ça. Alors là, c'est même pas la peine.
Un Metroidvania, alors dans la métacatégorie pitchable, là, c'est
un jeu sur lequel tu passes ton temps à revenir sur tes pas pour ouvrir des portes que tu pouvais pas ouvrir au début. Voilà.
C'est tellement ça. c'est complètement ça.
Et ça m'a aussi fait penser à une autre anecdote. Ça, c'était à l'époque de la sortie de GTA V.
Laquelle?
La toute première.
D'accord.
La 2013.
Faut préciser.
J'avais un ancien collègue qui avait écrit dans un article qui n'était pas encore publié. Il avait marqué genre GTA, un jeu de voiture.
Wow.
Et j'étais allée le voir. Genre GTA, un jeu de voiture. Et j'étais allée le voir, tu vois, en courant, en lisant ça dans la maquette, en lui disant, mais non, tu peux pas dire, c'est un jeu de voiture, c'est pas un jeu de voiture. Il me dit, mais si, t'es tout le temps en voiture dans la ville.
C'est dans le titre, mais
voiture dans le nom.
Moi, je lui donne raison à 80%.
Mais en fait, oui, je lui donne, avec le recul, oui, je lui donne raison.
Mais c'est quoi un GTA? C'est un jeu
Mais du coup, on était rentré dans ce, non, dans ce débat. Il dit ok, c'est pas un jeu de voiture. Bah, c'est quoi alors? Bah, vas-y, définis-moi GTA, c'est quoi comme jeu?
Moi, c'est un jeu d'aventure.
Moi, j'ai dit que c'était un jeu d'aventure.
C'est un jeu d'aventure, ton perso il évolue, t'as des items.
C'est un jeu de rôle alors.
C'est un jeu de voiture où tu suis le GPS. Il y a que les modernes où t'as des armes à feu, mais avant, c'est un jeu d'aventure.
Mais tu vois, justement, j'avais répondu c'est un jeu d'aventure. Et il m'avait répondu, ah non, un jeu d'aventure, c'est pas ça. Un jeu d'aventure, donc lui, il avait genre, c'est un point and click, c'est Myst, c'est ce genre, c'est un jeu d'énigmes. Et j'ai dit, mais non, un jeu d'aventure. Donc,
c'est Uncharted.
Et en fait, on était partis sur une discussion.
C'est plus un jeu d'action, du coup, GTA maintenant.
Ouais, c'est ouais.
Un jeu de voiture, c'est un jeu où déjà, t'es une voiture.
Non, bah non.
Grand Turismo, c'est un jeu de voiture.
Mais pas du tout.
Non, mais dans GTA, les voitures sont une composante de ton aventure. The
Crew, c'est un jeu de voiture.
The Crew, c'est un jeu de voiture.
Oui.
Mais
F1 Race, Dirt, c'est des jeux de voiture.
Ah, parce que tu peux pas sortir de la voiture.
Bah oui.
Parce que dans GTA, quand tu dois aller vite, tu dis tiens, je vais plutôt voler cette voiture-là plutôt que la chienne.
Et en plus, t'as des hélicos, t'as des
voilà,
motos. Hein.
Déjà, t'as des motos, t'as des hélicos, t'as des jet skis, c'est un jeu de véhicule.
C'est un jeu de véhicule.
Et les véhicules sont une composante. C'était pas une voiture.
Les trois quarts de GTA, c'est Crazy Taxi, les gars. C'est un jeu de voiture.
C'est un jeu de voiture car tu n'es que la voiture.
Non, t'es le conducteur de la voiture.
Crazy Taxi, je dirais, c'est même
de la voiture.
Crazy Taxi, c'est même pas un jeu de voiture. Hein.
C'est un jeu de vaisseau. Bah oui. Tu es le vaisseau.
Elite Dangerous, c'est un jeu de la vie. Hein.
Mais non, tu es le conducteur qui est dans le vaisseau.
Mais tu peux pas sortir.
Toi, tu penses encore que Pikachu il pousse Sacha aussi. Bah, ouais. Toi, t'as pas le jeu vidéo à l'envers, mon gars.
Écoutez, c'est comme ça. Mais moi, ça me déprime un peu tout ça parce que si on rentre tous les jeux dans des catégories qui sont un peu trop vastes, bah tous les jeux PS4, c'est les mêmes.
Bah oui.
C'est des jeux d'aventure à la troisième personne.
C'est des TPS gris marron.
C'est des jeux d'aventure. Ça, ouais. Regardez, est-ce qu'il y a un autre jeu PlayStation qui ne soit pas un jeu d'aventure
dans
à la troisième personne?
Ah bah non.
C'est tous des jeux d'aventure à la troisième personne.
God of War, Uncharted, c'est des TPS.
Bloodborne, Spider-Man.
Il n'y a que le, on va dire, le fond qui change. Là, on est dans le nord de l'Europe. Là, c'est à post-apo.
Bah oui, tu changes le skin.
Là, on est au Japon.
Tu changes le skin. Mais dans ce que Fibre disait, en fait, le problème, enfin la question, je pense qu'elle est vite répondue parce que Steam, tu peux mettre plus qu'une case. En fait, le problème qu'on a, nous, c'est quand on doit mettre un jeu dans son entièreté dans une seule et même case.
C'est pour ça qu'on a la culture tag.
Mais à partir du moment où, effectivement, t'as des tags, bah, rien n'empêche qu'en GTA d'être un RPG, plus jeu de voiture, plus de FPS, plus. Enfin, tu vois.
En fait,
donc, en fait, il n'y a plus de problème.
Moi, c'est une de mes philosophies de vie, c'est une de mes Nindo. On a eu cette grande discussion à l'époque, à l'époque où on parlait de la tribalisation de la société, où toutes les sociétés se divisaient en tribus. Donc, je sais pas, il y avait la tribu des rappeurs, tout comme tu pouvais être dans la tribu des, je sais pas moi, des skateurs. Et nous, on n'était pas d'accord. Et on disait, en fait, aujourd'hui, tu n'es pas dans un système de tribus, tu es dans un système de constellations. Donc, il n'y avait pas les histoires de tags avant, mais c'était plutôt dans ta vie, tu as une constellation de valeurs et tu as des gens qui prennent des trajectoires. Donc, tu as des gens qui disent, moi, je me disais, bah, justement, je me dis geek et puis en même temps modasse et puis en même temps, je sais pas, sportif, etc., etc. Et mon identité, ce n'est pas de me dire à quelle tribu j'appartiens, c'est la trajectoire que j'emprunte. Et en fait, on parlait de tag, mais qui n'existait pas en fait au début des années 2000. Et après, tu as eu la culture tag qui est arrivée, qui est effectivement, je suis d'accord avec Daz, beaucoup plus précise, dans le sens où tu ne donnes pas une catégorie à un jeu. Ton jeu va être ce fameux nuage de tag, et qui du coup est plutôt vrai. Et non seulement je trouve ça plus pratique, même s'il y a toujours une forme de limite, mais encore une fois, c'est ton entrée dans le jeu. Après, chaque jeu a son unique en certains points. Mais en plus, je trouve que les tags te permettent, je pense...
Bah de t'ouvrir un petit peu.
Mais là, j'ai fait un petit fibrotique, c'est-à-dire que je pense un truc, mais j'en suis pas sûr. En tant que concepteur de jeu, de créer des choses nouvelles. Donc aujourd'hui, bah, t'as un platformer Battle Royale. Aujourd'hui, j'ai vu un FPS rythmique, tu vois. Et peut-être que t'as des gens qui s'amusent à faire une culture du sample, quasiment limite, faire des mash-ups de style de jeu et de mélanger des tags. Et peut-être que ça les aide aussi à faire des jeux.
Mais alors attention, parce que des fois, t'as aussi du coup des commandes. Genre, tu vois, Tencent qui va voir un dev et qui lui dit alors moi, tu me fais un Battle Royale, voilà, Breath of the Wild Gacha, et on se retrouve avec Genshin Impact ou un Battle Royale machin.
Oui, encore une fois, le tag, c'est comme le nucléaire, c'est quelque chose qui est amoral. Après, voilà, la science. Ce n'est qu'un outil, voilà. Après, ce qu'on en fait, c'est le propre des hommes.
Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux, musicalement parlant, c'est la K-pop. Pourquoi ? Parce que ça reprend plein de genres musicaux et ça les mixe en, tu vois, une seule playlist. Peut-être que le jeu vidéo, ça va devenir ça. Il y a des jeux comme Nier Automata qui ont essayé un peu de faire ça. Tu joues à Nier Automata, t'as un JRPG, puis d'un coup, tu te retrouves avec des phases de shoot'em up complètement pétées. Puis d'un coup, je sais pas, c'est une histoire d'aventure où il faut résoudre des problèmes sentimentaux entre les gens. Il y a plein de genres qui se croisent les uns avec les autres.
C'est
tu
pas
vois.
Ce que fait Kojima dans ses productions en général aussi, de mélanger des
ça,
trucs.
C'est juste l'intro.
Non, Kojima, il fait des jeux très narratifs souvent.
Il me semblait qu'il y avait des donc, phases différentes. Enfin, je voulais parler, pas passer
ouais,
pas mal
de trucs. Ouais, il y a quelques mini-jeux sympas de temps en temps. Mais je te parle vraiment, tu sais, tu joues genre à GTA, tu vois, tu voles une voiture, t'arrives, et puis d'un coup, d'un seul, ça se transforme en un shoot'em up, tu comprends pas. Le genre change, le scrolling change, d'un coup, tu passes en FPS. Enfin, je veux dire, une espèce de mix-up de jeux complets. Il n'y a pas vraiment de jeux qui sont comme ça. Mais bah, toi.
Ouais. Si, j'allais ajouter là, le dernier jeu de VanillaWare, 13 Sentinels.
Oui,
qui,
bah,
en gros,
un
est
OVNI, oui,
soit un OVNI total, qui a un côté. T'as un visual novel qui est ultra long.
J'ai très envie de le faire.
Et à côté de ça, t'as un jeu tactique avec des gros mechas et t'as un tower defense auquel visuellement tu comprends rien. En tout cas, quand tu regardes, apparemment quand on y joue, on y comprend. Mais
tu l'as présenté comment celui-là dans le Figaro par exemple?
Alors celui-là, je ne l'ai pas présenté dans le Figaro.
D'accord. Voilà. OVNI, hein, pour ça, OVNI vidéoludique.
OVNI vidéoludique. Voilà, mais non, il n'a pas été présenté dans le Figaro, mais oui, aussi on est en train de jouer à la maison.
En tout cas,
même Persona, hein, c'est pas un dating sim, mais c'est un social sim. Le jour, JRPG la nuit.
Et bien, pour le coup, quand j'ai dû le présenter au Figaro dans une émission vidéo, on m'a dit alors, c'est quoi Persona 5 le jour, vous êtes lycéen et la nuit, en fait, vous êtes dans des donjons et vous devez combattre des monstres.
Bah,
mais en fait, il y a aussi une grosse compensation sociale. Enfin, bref, mais c'est impossible à résumer en.
Mais c'est ça que dans ces jeux-là, justement. Ces jeux-là,
c'est des jeux K-pop.
Mais là, j'ai une épiphanie, là. Je me rends compte que moi, je suis tellement un boomer du jeu vidéo que. Tous les jeux que vous citez, en fait, à partir du moment où ils rentrent dans plus d'une catégorie, du coup, je passe à côté, tu vois. Donc, ouais, Nier Automata, jamais joué, Persona, pareil, tous les jeux
c'est
là.
C'est japonais, bizarre.
Sur Game Pass,
c'est bizarre, hein, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc. Mais je crois que les studios japonais qui s'amusent à mixer
non,
autant.
Les jeux qui viennent d'Asie, c'est pas mal dans la culture aussi de là-bas. Les jeux coréens, c'est pareil.
Mais
c'est
marrant parce que vous défendez beaucoup les tags, du coup, et beaucoup les sectorisations, alors que finalement ça va à l'encontre de cette critique théorique du jeu vidéo qui serait critiquée comme un film.
Je trouvais intéressante les films c'est
films
des
aussi,
genres hein. C'est un
comédie romantique, film policier, thriller,
film d'action,
blockbuster
ça veut rien dire, ouais,
film thriller. Non mais tout le monde a sa catégorisation, mais par contre je trouve que l'approche de Mathieu Triclot était intéressante. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement tu vois Chloé elle parle de dire des jeux de tir, des jeux de voiture. Nous, on parle de dire, c'est plutôt un FPS, fast FPS, donc on parle en gameplay. Mathieu, parle d'intensité. Et c'est marrant parce que du coup, peut-être que tu peux un jour mélanger les trois. Tout comme on est passé d'une catégorie à des tags, peut-être qu'à un moment, on va passer à des nuages de pratiques thématiques, tu vois.
Jeu qui se termine en 3 heures.
Jeu qui se termine en 3 heures. Jeu Game Pass.
Jeu qu'on maîtrise en 10 minutes.
Mais je vous reparle des playlists de jeux vidéo, mais c'est aussi des jeux pour le mood, tu vois.
Ouais. Ouais.
Des jeux qui te calment, par exemple.
Ah,
des jeux entre amis, il y a ça.
Ouais,
couch co-op. C'est littéralement ça.
Ça me fait penser aux catégories Netflix. Enfin, ouais. Tu vois, par exemple, il y a une catégorie que j'ai vu popper il y a pas longtemps, c'est genre série à regarder en un week-end. Voilà.
Ah,
donc, on
n'a
pas
ça,
aussi jeu à finir en un week-end, en une soirée.
Après, ouais, juste l'âme, donc pour terminer là-dessus, sur jeuxvideo.com, c'est quand même compliqué de ne pas catégoriser sur le site.
Il faut le catégoriser sur
à cause du lectorat.
L'architecture du site, surtout. L'architecture du site.
Pardon, ok.
Commence pas, Daz.
Ok, pardon.
En fait, j'avais juste une petite question, un point que tu as abordé dans ta chronique, quand tu disais qu'il y a des publicités pour des jeux qui n'existent pas.
Oui.
Les gens qui cliquent, du coup, ils ont quoi derrière?
Aujourd'hui, quand vous cliquez sur un jeu mobile, enfin, et faites le test chez vous, c'est amusant. Vous êtes sur Insta et vous avez une pub pour un jeu mobile. Cliquez dessus.
Putain, j'ai jamais eu ça.
Ce sera pas le jeu dont vous avez eu la pub. Voilà.
Il y a des fois, en plus, j'avoue que je suis tenté. Tu sais, quand je vois les trucs qui s'upgrade.
Voilà. Ouais, c'est vrai.
Non, tu vois un mec, level 1, level 25, de level 250, je fais. J'ai quand même envie de voir la gueule.
Vous avez,
ça,
vous avez déjà vu This Is Home Mafia Work, le même, avec l'animation 3D? Ça, vous avez jamais vu ça?
Non.
Bon, moi, j'ai des pubs de jeux vidéo, mais tout le temps, c'est quasiment.
J'ai une sorte de belle-mère et de femme enceinte.
Ouais, voilà, t'as ça.
En jeu d'aventure narratif sur Reddit.
Ouais, c'est sur Reddit que je vois des pubs pour des jeux chelous, en fait, mais jamais sur Insta.
En tout cas, quand vous cliquez sur les jeux, vous ne tombez pas sur le jeu. C'est à la fois de la pub pour des jeux random qui vous permettent de genre, mais c'est aussi des études de marché qui permettent d'affiner les jeux du futur du studio.
Ah voilà. Putain, donc tous ces jeux spatiaux incroyables où tu crées ton propre destin, en fait, si je clique, il n'y a rien derrière.
C'est Panta qui a fait une chronique dans le journal de JV.com intéressante, sur un éditeur polonais sur Steam qui balance des trailers genre Jésus Simulator, Socialist Simulator, des trucs complètement pétés avec un trailer, un pitch et une fiche Steam.
Ah oui, j'avais vu.
Et jauge le
voir qui est wishlist.
Et si tu mets dans ta wishlist,
il lance
vraiment un simulateur de Jésus et lance le dev.
Mais c'est que des simulateurs, lui, qui fait. Ouais, c'est que quelque chose de simulateur. Ouais, voilà, tout à fait.
C'était complètement baisé.
Mais du coup, Thief Simulator, il est vachement bien. Si un jour vous... Enfin, il est très buggé, mais c'est un bon petit jeu. On est un voleur.
Voilà. Très bien, merci Fibre. Très, très intéressante comme chronique. On va marquer la première pause. Et on va parler un tout petit peu rêve, les amis. Vous arrive-t-il de rêver de jeux vidéo? Et si oui, de quel jeu vidéo rêvez-vous lorsque vous rêvez de jeux vidéo? C'est une question...
Je laisse Chloé répondre d'abord, parce que c'est spectaculaire.
C'est une question Inception.
Ouais.
Ouais, alors, on en a discuté tout à l'heure de cette question. Et en fait, moi, il y a un souvenir qui m'est revenu, mais immédiatement, qui est un cauchemar que j'ai fait quand j'avais genre 12 ans. 12-13 ans. Et en fait, à cette époque-là, je jouais énormément au premier Tomb Raider. Et
c'était pas pour les enfants de 12 ans, je crois, hein, d'ailleurs.
Bah, pff, bon,
petite rebelle.
Mais pas du tout, attendez, ça va, ça va. Et je devais peut-être avoir un peu de fièvre. Enfin bref, c'est le genre de cauchemar fiévreux dont tu ne sors pas vraiment. Et donc j'ai rêvé que j'étais dans un des niveaux de Tomb Raider 1. Donc pour ceux qui se souviennent de ce jeu, il y a le deuxième monde où on est dans un truc gréco-romain. Et je crois que c'est la Folie Saint-Francis. Et c'est un niveau qui est vertical, donc faut faire, parce que comme Tomb Raider c'est ultra millimétré, donc faut faire super gaffe quand tu sautes, et si jamais tu te rates, en gros tu t'écrases comme une crêpe en bas, t'entends les os qui craquent et tout. Alors c'était pas au niveau des Tomb Raider d'aujourd'hui où c'est vraiment, voilà, vraiment ultra gore, mais bon, j'avoue, tu comprends quand même que c'est pas génial. Et donc j'ai rêvé que j'étais dans ce niveau, que en fait en vue FPS quoi. Et donc, qui ressemblait vraiment au niveau du jeu vidéo. Hein. Enfin, c'était pas du tout genre dans la vraie vie. Et je me voyais chuter. Voilà, à chaque fois, j'essayais de sauter, je chutais. J'étais genre, ah non, merde! Et du coup, pouf, et ça rebootait. C'est comme si je rechargeais une partie. Et il fallait que je recommence, tu vois, sauter de plateforme en plateforme. Et je m'écrabouillais. Ouais. Voilà, donc c'est mon rêve jeu vidéo qui m'a le plus marqué. J'en ai peut-être fait d'autres, mais alors celui-là,
genre,
toi,
en
je
plus,
m'en souviens encore.
Tomb Raider, c'est-à-dire les mêmes polygones.
Ah oui, les mêmes polygones.
Pas de mapping sur les textures,
ça avait
c'était
la même
dégueulasse.
Gueule que sur ma PlayStation.
C'était un cauchemar.
À quoi ressemblaient tes mains sans virgule flottante?
Une palette. C'était une palette comme ça.
Mais je voyais pas, en fait, je voyais juste le décor et que je m'écrabouillais et qu'il fallait que je recommence. Et puis.
T'associes plus les rêves de jeux vidéo à des cauchemars finalement.
Bah en tout cas c'est celui dont je me souviens. Après j'en ai certainement fait d'autres, mais celui-là, tu vois, plus de 20 ans après, je m'en souviens encore.
Très bien, Daz, est-ce que tu t'évades durant tes rêves? Toi, tu
rêves
pas. Daz,
il se souvient pas de ça.
Moi quand je me réveille, je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé.
D'accord.
C'est un œuf qui ne rêve plus.
Si, ou je rêve tellement que du coup.
Daz éveillé.
Daz, il faut t'entraîner à se souvenir des rêves. C'est très important.
Ah je non.
Il faut s'entraîner, il faut noter.
Ou en tout cas, même si j'ai des souvenirs de certains rêves, je me suis jamais retrouvé dans un jeu vidéo. Ça c'est clair et net.
Très bien. Fibre.
Alors moi, ça m'arrive hyper souvent quand je joue à des jeux très longtemps et que j'arrête. 15 jours après, systématiquement, je fais un rêve.
15 jours après ?
Ouais, 15 jours après, pile.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'en fait, j'arrête et donc je suis sevré et je crois que mon cerveau, à un moment, il se réveille, il dit mais pourquoi tu joues plus à ce jeu ? Et The Witcher 3.
Oui, mais.
The Witcher 3, je peux vous dire, je l'ai revisité et c'était fantastique parce que c'était magnifique, des grandes collines, des plages, des forteresses, vraiment des trucs fantastiques. Un tout petit peu de Red Dead Redemption, un peu puzzle game.
Désolé.
J'ai également Dark Souls, la forteresse de Sen. Alors là, je peux vous dire, je l'ai refaite plein de fois en rêve.
Mais t'es dedans ou tu te vois jouer au jeu? Parce que c'est deux trucs.
Non, je suis dans le jeu. Dans le jeu. Voilà. J'ai l'idée de cette question parce que je fais un rêve merveilleux il y a quelques jours.
Ah.
Où, j'étais dans un jeu vidéo, je me disais vraiment ce jeu vidéo est très chiant. Et j'ai eu une expérience fantastique, c'est que j'étais sur une route linéaire, elle était toute droite. Il y avait des très beaux décors procéduraux de part et d'autre qui étaient très réalistes, un peu comme GeoGuessr en fait. Et je dis vraiment, je me fais chier, mais c'est vraiment beau. Et en plus, il y a une distance d'affichage incroyable, pas de clipping, mais vraiment c'est beau. Et tu vois, j'avais des bouffées d'euphorie. Et il y avait des checkpoints où il y avait un jeu de cartes, un card game à la Hearthstone. Voilà. Et j'ai dit, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Voilà.
très bien, Fibre, un jeu sans catégorie.
Je rêve beaucoup de jeux vidéo, mais de manière un peu insomnie fiévreuse. C'est que souvent, quand je suis obsédé par un jeu, et notamment les jeux qui te demandent de... Je sais pas comment vous dire. Je suis un mec très greedy quand je joue aux jeux vidéo. C'est-à-dire que j'adore avoir le truc le plus rentable possible. Donc quand je vais jouer Hearthstone, le nombre de parties que j'ai jouées, parce que je me dis, je vais attendre pour avoir vraiment le combo de cartes parfait, ça va être stylé, puis j'en meurs, mais bref. J'adore réfléchir à ce genre de moment qui me donne des satisfactions énormes, quoi, quand c'est vraiment un truc hyper rentable. Et souvent, comme beaucoup de gens, je joue aux jeux vidéo jusqu'à trop tard et que je vais me coucher trop vite, j'arrive, je dors mal parce qu'en fait j'ai le cerveau encore en ébullition, ouais. Et des fois je pense au jeu en boucle, et tous les jeux notamment avec des builds, donc les RPG, les Elite, la Hades en ce moment, je passe mes nuits à avoir des choix d'options. Mais alors par contre c'est pas, c'est pas, tu vois, je suis pas en train de jouer une partie entière. C'est vraiment, vous savez, comme quand t'as une nuit un peu fiévreuse et que t'es en train de revivre un moment en boucle non-stop, de refaire un choix, de revivre le moment, ouais. Etc. Des fois, j'ai l'impression de revivre un moment de choix, d'option de vaisseau, de build, de machin, etc. Et des fois, j'en dors très très mal. C'est hyper désagréable. Et sinon, le jeu auquel j'ai le plus rêvé, c'était Tetris. Ou Tetris, vraiment. Et des fois, je m'endormais avec des visualisations de genre d'enchaînement de briques parfait, quoi. Hyper satisfaisant. Et pareil, c'est pas des parties entières.
C'était des beaux rêves, alors.
Ouais, non, mais c'est vraiment des petits moments qui, j'ai l'impression, sont en boucle, comme si tu cut un sample en un huitième de temps. Tu avances avec pap, 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 pap. Et là, j'ai ça. Et là, en ce moment, dans Hades, je m'endors en rêvant de build parfait dans Hades. Mais vraiment, c'est que le moment où le build se fait. Je suis même pas dans des phases de jeu, quoi.
Bah moi, c'est exactement comme toi.
Ah ouais,
exactement.
Bah voilà.
Les seules fois où je rêve à des jeux vidéo, c'est des puzzle games sur lesquels j'ai passé du temps. Et en fait, je les résous durant mes rêves. C'est-à-dire Baba Is You, j'ai résolu quasiment tous les problèmes où j'arrivais pas durant mes rêves. Ah je me suis levé le matin, je suis bah oui, il faut faire ça.
Alors moi-même voilà, en rêve, j'ai jamais fini Baba Is You.
C'est-à-dire que ton cerveau fonctionne très bien.
Mais je me suis entraîné toutes mes études à faire ça tout le temps, en fait. Donc c'est quelque chose
qui
fait ça naturellement. Et Tetris, Puyo Puyo, c'est des jeux quand j'y jouais de façon intense, la nuit, je dormais très bien. Mais tu peux être sûr que toute ma nuit, c'était des parties de Puyo. Des Puyo qui s'entassent,
Tu t'imagines en train de faire un 12 hit combo,
c'est ça,
tu vois.
Exactement. Et les Tetraminos, et ils arrivent dans toutes les directions possibles. Et comment est-ce que je les mets? Si, c'est quand même très bien. Comment je les mets?
Sauf qu'il y a des gros problèmes, en fait.
Je passe des super moments.
Mais moi, j'ai envie de vous offrir des tisanes bonne nuit.
Je bois des tisanes avant de dormir.
Mais c'est ultra satisfaisant. Je me rêve le matin et j'ai l'impression que mon cerveau, il a intégré tout ce que j'ai fait la veille et je suis plus fort.
Putain, j'ai l'impression d'avoir des rêves improductifs au possible. Je me dis merde.
Toi, tu rêves pas, mec.
Moi, je résous rien. Moi,
mais attends,
moi
ça
c'est
dit,
du temps perdu.
Ça dit, Daz, la moitié de tes 24 heures, mon gars.
Daz, il dort 4 heures par nuit. Ça, c'est aussi un ton pouvoir.
Ouais, 6,
c'est-à-dire, t'as pas le temps 5, de rêver. Il dort hyper peu, c'est affreux.
Ah, tu dors 5 heures par nuit. T'as même pas le temps de rêver, mec.
Oui, t'as pas le temps.
Bah, si. Enfin, je me repose, quoi.
Voilà, les rêves. Racontez-nous vos rêves, hein. C'est très très important, bien entendu. On va passer à la deuxième chronique, et c'est Lam qui va nous raconter l'un de ses plus gros fantasmes de jeu.
Wow.
Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment ton fantasme, mais en tout cas, tu vas nous parler du fantasme des jeux infinis.
Tout à fait. Donc là, ce n'est pas les jeux dont je rêve la nuit, c'est les jeux dont je rêve le jour, qui sont des jeux... c'est un fantasme de jeu qui m'a suivi depuis très longtemps. Au moment où j'ai commencé à jouer à des jeux à l'échelle humaine, ce qui était la plupart de nos jeux, et les premières fois, j'ai découvert des jeux à très grande échelle qui étaient, je ne sais pas, des civilisations ou à l'époque des homeworlds, des choses comme ça, avec des très grandes épopées. Et troisième dimension, la première fois, j'ai vu des jeux massivement multijoueurs. Donc pour moi, ça a été EverQuest, Ashram's Call, etc. Et dans ma tête, j'ai commencé à faire la gymnastique en me disant, mais le jour où j'ai un jeu qui est génial à mon échelle, moi, de joueur seul, genre un Mario ou, je ne sais pas, un Doom, et qu'en même temps, on peut jouer à des milliers ensemble avec cette expérience de cette qualité sur des terrains immenses, ce sera le Graal du jeu vidéo. On sera vraiment arrivé au bout du jeu vidéo, on aura le jeu vidéo total. Alors évidemment, je savais que déjà à l'époque, comme beaucoup, que techniquement, c'était impossible. À l'époque de la PlayStation 1 ou même de la PlayStation 2, on savait déjà que tu sens que c'est la 3D, mais tu sens que c'est le début, que c'est vraiment très limité. On savait déjà qu'il y avait des choses, quoi. Donc j'ai pris mon mal en patience et est arrivée la décennie 2010, en fait. Et notamment ce que j'appelle la génération 2012, qui, pour les amateurs de foot, est un peu aux jeux vidéo ce que la génération 87 est aux amateurs de foot. Tout le monde a suivi là-dessus ?
À peu près.
Donc je vous rappelle que la génération 87 au football, c'était cette fameuse génération magnifique qui a été biberonnée au champion du monde 98 et qui était évidemment Atem Ben Arfa, qui était, comment il s'appelle, les trois autres petits cons là.
Zinedine Zidane ?
Non, lui, c'est, mais non.
87,
la génération 87, c'est...
Griezmann et compagnie.
Non, c'est plus jeune, ça, Griezmann.
Juste pour vous,
mais non,
gueuler.
C'est... ça y est. Alors, Ben Arfa, le pote de Ben Arfa à Lyon,
Ben
qui est maintenant au Real.
Benzema.
Le mec qui avait un ego pas possible, qui est parti à la Roma,
Franck
qui est au PSG.
Ribéry.
Non, Franck Ribéry, c'est un autre. Il y en a quatre. Il y en a un qui est parti.
Aurier, non.
C'est affreux, j'aurais dû mieux vous le préparer. Je pensais que j'étais bon foot, mais je m'en rappelle plus.
Je vais regarder sur...
Samir Nasri. Et le quatrième, qui est un mec qui est parti à la Roma. Qui a un énorme ego aussi, un ailier droit, je crois, du PSG.
Si vous aimez pas le foot, c'est...
Bon, bref.
Désolé.
On parle souvent de la génération 87 comme une génération qui devait tout exploser et qui a été un peu une génération avec un bilan un peu tristoun, quoi. Ils ont eu des réussites différentes et globalement, en équipe de France, ça n'a pas été génial.
Par contre, Benzema, il arrache tout à Madrid.
Il a des très bonnes stats, mais ça n'a jamais été une grande star comme les plus illustres. Et puis, bon, en équipe de France,
il n'est pas là.
Plus généralement, c'est compliqué. Il s'appelle Jérôme... Non, c'est pas Jérôme Roten.
Roten.
Non, c'est un autre.
Ok.
Oh, on va le trouver. Tapez ouais, Génération 87. Bon, bref.
Merci, Chloé.
en jeu vidéo, du coup, on a eu la génération de 2012. Oh. Ou à peu de choses près. Donc, 2012, vous allez voir, c'est une date qui va très, très souvent revenir, même si des fois, on va s'aventurer en 2011 ou en 2013. Mais vous allez voir, c'est vraiment étonnant. On a eu cette génération de jeux qui allait me promettre le Graal du jeu vidéo. Alors, je vous rappelle, du coup... un peu mon Graal du jeu vidéo, je pense que j'ai dû le raconter 36 fois à Fibre et à Daz. T'es dans l'espace.
Oh non.
T'es dans l'espace.
Si.
T'es dans l'espace. Fibre est aux commandes d'un vaisseau pirate. Daz est au canon de ce vaisseau pirate. Moi, je suis dans les cales avec 5 autres joueurs. Et on attend caché dans les astéroïdes qu'un vaisseau passe. Voilà.
Oh, putain.
Et ce vaisseau, on va pas le détruire, on va s'en emparer. Alors comment on va s'en emparer? On va essayer de le pirater et de l'intérêt de s'en emparer en fait. Ça veut dire que Fibre va commencer à manœuvrer pour mettre un coup de pression et empêcher le vaisseau de faire un saut interdimensionnel. Daz avec ses canons va empêcher les intercepteurs du vaisseau ennemi de nous attaquer. Et pendant ce temps-là, t'as trouvé
Je sais. Alors, Karim Benzema,
oui.
Jérémy Ménez.
Merci beaucoup.
Samir Nasri, Atem Ben Arfa.
Voilà, merci.
M'aurais dit le connard, j'aurais dit ben oui.
J'ai dit le connard.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais,
bon, c'est vrai. Donc, retour dans l'espace. On quitte Jérémy Ménez, on retourne dans l'espace. Nous, avec des pods, on s'éjecte du vaisseau et discrètement, on arrive et on perce la coque du vaisseau adverse. On rentre dans le vaisseau adverse. On est dans le vaisseau adverse qui est à l'échelle 1.
En first person ?
Évidemment.
Ah, ok.
On arrive en first person dans le vaisseau adverse qui lui-même a une structure custom, un peu à la FTL. Donc, il faut qu'on comprenne quand le vaisseau adverse est arrivé. Évidemment, le vaisseau adverse... il est alerté qu'on rentre dedans. Pendant qu'il se combat avec le vaisseau, il va envoyer ses propres soldats à l'intérieur pour essayer de stopper les mecs qui sont rentrés à l'intérieur du vaisseau. On se fight avec eux, on défait le système d'alarme. Tout d'un coup, là, il y a une sorte d'énorme système de sécurité, genre un robot qui nous fait chier. Je demande à Daz de tirer sur une partie précise de la coque pour faire exploser le truc et l'aspirer dans l'espace. Incroyable. Bon, on avance, on s'aventure dans le vaisseau. L'équipage du vaisseau, ayant bien compris notre tactique, s'enferme dans la cabine de pilotage qui est blindée. On peut pas la forcé sans détruire le vaisseau. Du coup, on cherche, on trouve les réserves d'oxygène, qu'on pète. Du coup, les mecs vont commencer à s'étouffer. Le seul moyen pour ne pas s'étouffer, c'est qu'ils ouvrent la porte. Ils sont obligés d'ouvrir la porte. On les vivra en joue et on s'empare du vaisseau. Et là, on a eu un gameplay où moi, j'ai joué un FPS absolument incroyable. Et en parallèle, on est comme dans un film avec deux histoires à deux échelles. Daz et Fibre, on joue à un truc où des vaisseaux se déplacent à 2000 à l'heure sur une aire de 900 km² avec une physique incroyable. Chaque vaisseau ayant ses propres modules qui réagissent à mon échelle de joueur, un joueur, et à leur échelle, deux trucs absolument gigantesques. Je n'ose même pas imaginer s'il y avait au-dessus un autre pote qui était commandeur et qui avait une vue éloignée du conflit, un peu comme on a tenté dans Battlefield, et qui gérait aussi les escadrilles, les refuels, etc., etc. Ça, j'en rêve, et je ne vais pas vous spoiler, j'en rêverai encore pendant quelques temps.
Non, ça porte un nom.
Mais tu as joué à Sea of Thieves depuis le temps.
Non, ça s'appelle Star Citizen.
Non, mais Sea of Thieves, pourquoi c'est pas Sea of Thieves?
Je vais y venir. Mais notamment, en fait, cette idée d'avoir quelque chose qui est extrêmement précis et jouissif à l'échelle d'un homme, d'une personne, d'un joueur, et qui peut être jouable à quelque chose de très macro, en fait. Donc, j'en rêvais, et donc, en 2012, sont arrivés les élus qui allaient tenter ça. Les élus, c'est Beyond Good and Evil 2, en pré-prod depuis 2007, Reveal Teaser en 2008, et ensuite... 2016-2017, il était dedans, rentré en prod au début des années 2010, vraiment un peu plus fortement. Star Citizen, Kickstarter le 18 octobre 2012.
Ouais.
Elite Dangerous, Kickstarter en novembre 2012.
Ouais.
No Man's Sky, mise en prod en 2012 et annoncé en 2013. Donc, mise en pré-prod en 2012, annoncé en 2013. Donc là, j'ai un peu mes quatre élus, quoi. Et les quatre, en fait, promettaient une expérience à échelle humaine, dans une immensité, chacun à leur manière. Donc,
On va pas revenir sur les spécificités de chaque, qui était ou de générer procéduralement des milliards de galaxies comme Elite et No Man's Skies, ou de générer quelques galaxies et dans les détails le faire procéduralement comme Star Citizen, ou tenter de faire un maximum de trucs à la main comme Beyond Good and Evil 2. Le seul truc, c'est que quand on prend le bilan aujourd'hui en 2020, 8 ans après leur mise en prod ou leur annonce ou leur lancement, c'est un peu une Jérémy Ménez. Voilà.
Bon, il y en a un qui a réussi.
Il y en a, on va dire, c'est Karim Benzema. Mais
c'est lequel qui a réussi?
Je vais dire que c'est Elite, mais
ouais. Alors, No Man's Sky aussi.
Pour moi, c'est No Man's Sky.
Alors, on va commencer donc Beyond Good and Evil 2, Star Citizen et Legend of Heroes, No Man's Sky par ordre chronologique. Beyond Good and Evil, on sait depuis quelques jours, on s'en doutait depuis quelques mois, mais on sait depuis quelques jours que c'est un bouillon absolu.
C'est compliqué.
Que ils ont eu encore une fois, enfin, ce truc vertigineux, et c'est eux qui l'ont peut-être le plus montré avec Star Citizen. Le côté, ouah, tu fais un petit TPS dans un temple, tu sors du temple, tu montes dans ton scooter, tu sors de l'atmosphère, tu rentres dans ton vaisseau qui est en orbite, qui est gigantesque, qui est une ville à lui tout seul. Et puis la planète entière, il y aura des villes et tout à l'échelle 1, etc. On s'est rendu compte qu'en interne, c'était un cauchemar à faire, que Michel Ancel rêvait d'une ville encore plus détaillée et qu'ils n'arrivaient pas à faire une ville, donc vous imaginez même pas un globe. Donc c'était un bordel. Le jeu est ce qu'on appelle en development hell, ce qui est dans une sorte de purgatoire, donc on ne sait même pas s'il va vivre ou mourir en 2020. Ensuite, Star Citizen aussi
il a eu le feu vert, il a failli le développement a failli s'arrêter l'année dernière,
ouais.
Selon l'enquête de l'IB,
ouais.
Et ils ont réussi à in extremis à sauver et là slice, ça y est, c'est bon, ouais. il est passé en production.
Mais il est passé en prod, mais est-ce que ce sera ce qu'on a vu dans les démothèques de 2016 ou 2017?
Ce sera moins ambitieux, mais moins peut-être ambitieux. Service, on verra.
En tout cas, cette échelle vertigineuse. BGE2, celui qui l'a le plus montré, le deuxième qui l'a le plus montré, c'est évidemment Star Citizen, qui était, tu vas juste te lever de ta couchette, cliquer sur ton truc pour faire ton lit, t'appuies sur les boutons d'ascenseur, nanana, pour ensuite monter dans
c'est
des vaisseaux.
Chiant.
Voilà.
Ça suffit, hein.
C'est chiant.
Mais l'autre jeu qui a tenté ça, enfin qui continue à tenter ça, c'est Star Citizen, qui était vraiment dans le truc très 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 échelle humaine, jusqu'à tenter effectivement des sauts dans l'espace qui te prennent 12 minutes, des planètes à l'échelle 1, des vaisseaux où je sais que des fans se plaignent parce que c'est affreux, quand je tire dans la coque, il n'y a pas de dépressurisation progressive par compartiment du vaisseau, c'est un scandale. Des choses qui avaient été promises. Voilà. Donc Star Citizen, on va toujours dire, on attend de voir ce qu'il va faire, mais je vous rappelle que bon, c'est un jeu qui a été... qui était en pré-prod avant 2012, mais le Kickstarter a été lancé fin 2012. Depuis, le jeu a gonflé et on a l'impression que c'est une course un peu comme la barre YouTube. C'est qu'en fait, t'as les features qui sont annoncées plus vite que les mecs arrivent à les faire et qu'à un moment, à chaque fois, tu fais putain, le truc va arriver au bout de la barre grise, il faut que la barre grise, elle préload. Et évidemment, ils n'y arrivent jamais. Troisième, Elite Dangerous, évidemment, que je porte dans mon cœur et que Daz porte dans son cœur parce qu'on y a beaucoup joué.
Que je fibre. Je porte sur moi même, littéralement.
Et que Daz porte littéralement sur lui. Elite Dangerous, c'est un peu bizarre parce qu'il est. J'ai envie de dire, en tant que Elite Dangerous, il a réussi son pari parce qu'il a tout d'un Elite. Il reprend tous les trucs d'Elite en mieux. Voilà, donc si c'était la suite de Elite et de Elite
Frontière.
Et de Elite Frontière, le jeu est un pari réussi. Si c'était le jeu à bac à sable infini ultime du futur dont on rêvait, il n'a pas réussi son pari encore.
Mais il n'a jamais dit qu'il l'était.
Je sais, mais ils avaient promis beaucoup de choses, qui ont mis beaucoup de temps à rêver, puis on s'est retrouvé effectivement dans un jeu de vaisseau, pour revenir à notre débat.
Jusqu'à début 2021, je le dis.
Attends, juste, en tout cas, ça fait 9 ans qu'on est un vaisseau, dans un univers froid et aride comme pas possible, avec une génération procédurale qui parfois frise la caricature tellement tout est procédural. J'aime fort ce jeu parce que je passe du temps avec quelques joueurs, mais sinon c'est un jeu d'une aridité folle et qui montre aussi l'impossibilité.
Non, mais... C'est l'espace, les gars. L'espace, c'est hostile et c'est froid. Et c'est
non, mais voilà, mais en tout cas, l'impossibilité même de faire ne serait-ce qu'une ville ou une base en fait, jouable. En fait. Donc ça va peut-être arriver en 2021. On sait aussi que ça va prendre son temps, que ça va être en retard, etc. Mais voilà, 9 ans après la sortie du jeu, on va peut-être enfin jouer un astronaute ou une astronaute
à pied.
Dans un jeu d'astronaute à pied. Et se retrouver encore une fois dans des planètes, je pense, hautement arides, avec peut-être au milieu une petite base de rien du tout, etc.
Bah ouais.
Donc, bilan pour moi mitigé, même si, encore une fois, j'étais venu pour la partie pilotage de vaisseau, j'en suis très heureux. Et puis, on termine par No Man's Sky, qui est effectivement pour moi le Benzema du groupe. C'est qu'il s'est bien fait incendier, mais il score, et puis surtout, il s'est énormément amélioré avec le temps. Il est tombé pour moi dans le piège des autres, c'est-à-dire jeu infini, mais en fait, jeu bancal comme pas possible, avec une génération procédurale dans tous les sens qui était un cache-misère de ouf.
Mais là, c'était vraiment, c'était procédural, c'était limite artistique.
C'était infiniment inintéressant.
Ah
en
oui,
fait.
Ça n'a voilà. aucun intérêt.
Le jeu s'est beaucoup amélioré. J'ai pas assez joué pour vous dire si le jeu est devenu très bon, mais beaucoup de gens.
Apparemment, il a vraiment fait un 180. Non,
moi j'ai joué. Et je trouve qu'il est vraiment faible. Je suis désolé. Hein. Ah. Il est vraiment très très ennuyeux. Je vous mets au défi. Il est sur le Game Pass. Hein. Vous téléchargez-le gratuitement. Ouais. Vous le lancez les 20 premières minutes, c'est un cauchemar. Et les 20 suivantes aussi.
De toute façon, c'est le concept des jeux infinis. Hein, moi, pour moi, tous ces jeux-là vont être profondément chiants.
Non, Elite. En fait, ça
le pilotage d'élite
votes...
a un bonheur. C'est comme si tu faisais un simulateur de voiture et que tu jouais sur un circuit et quelqu'un disait ah mais le circuit, je sais pas, le public il manque de chaleur. Tu dis non mais moi ce que je veux c'est la trajectoire, le kiff du moteur
pour,
physique
pour de
la voiture.
Pour te rendre compte
de Elite,
ça, il faut
ça,
jouer
quoi.
À d'autres jeux. Tu joues là à Star Wars Squadron et tu te rends compte que le pilotage d'élite est incroyable.
Ouais, Elite, c'est incroyable.
Mais bon, très bien, ok, super. Mais c'est tout droit, ça bouge pas.
Mais
ça
non, c'est.
J'ai l'impression que Flight Sim, ça me vend plus de rêves que.
T'as pas joué. Va jouer dans une ceinture d'astéroïdes avec 3-4 chasseurs de primes et des pirates et le soleil qui se couche et tu vois plus rien. Bon, bref.
Protocole soleil,
évidemment. On va pas revenir dessus, mais donc voilà un peu le bilan de ces 4 jeux qui m'ont fait fantasmer depuis le début de la décennie, maintenant qu'on est à la fin de cette décennie. C'est très mitigé, on n'est clairement pas arrivé. Certains n'ont pas abandonné l'idée, d'autres ont un peu abandonné. On n'est pas arrivé à ce jeu infini dont je rêvais, qui, en fait, je me rends compte, techniquement est possible, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Je me rends compte que cette fameuse échelle immense du 1-1 au maximum, déjà, c'est humainement impossible à deux raisons. Humainement impossible pour les devs. C'est pas possible, quand tu es développeur, d'arriver à peupler un tel jeu. Tu ne peux pas peupler un tel jeu de manière satisfaisante, puisque, encore une fois, c'est bien joli de visiter des villes qui vont être générées procéduralement dans Star Citizen, mais tu auras le même intérêt que de visiter un terrain vague généré procéduralement. Et aujourd'hui, on en est revenu de tous les open world où tu as un ruisseau, une vallée, un peu avec des textures étirées, un bout de rocher, où tu n'as aucune forme d'intérêt, en fait. Tu es juste là pour courir et dire c'est immense, ça fait 4 km², mais il n'y a aucun intérêt. Le problème aujourd'hui n'a pas changé pour les développeurs. Tu ne peux pas développer, en tout cas aujourd'hui, avec les technologies disponibles, quelque chose qui est satisfaisant. Tu n'as que du remplissage dans tous les sens. Et j'attends de voir ce que Star Citizen va faire. Mais ce qu'ils ont montré, en fait, ça a du remplissage de luxe visuellement. Mais
du semi-procédural.
Ça a du semi-procédural, mais encore une fois...
Après, ils peuvent pivoter. Ils pivotent toutes les 3 semaines.
Évidemment. Donc, on rappelle que c'est une technique qui permet de créer automatiquement des villes et des quartiers. Et après, à un développeur de passer derrière pour dire « Ah, j'ai quand même rajouté un truc à la main dessus. » Mais ça restera des trucs déployés alors, comme ça.
Mais initialement, ils avaient dit que c'était 100% manuel sur 120 systèmes.
Aussi,
Aussi,
c'est assez impossible pour les développeurs. Après, il y aura peut-être une exception. Aussi, d'un point de vue technique, c'est qu'encore une fois, quand tu es un fan de first person, de jeux first person, donc pas forcément de first person shooter, mais de first person, tu as besoin de beaucoup de précision en fait. Tu as besoin de sentir que tu lags pas, que tu es sur un truc précis, que les hitbox sont là, etc. etc. C'est quasiment impossible à faire sur un jeu avec une aire de, je sais pas, 32 000 km³, par exemple.
Ah, j'avoue qu'à bêta tester, ça va être infini.
C'est impossible. Et ça me fait penser à un jeu qui est rentré en production full en 2012, encore 2012, qui s'appelait Projet Titan chez Blizzard, et qui devait être un MMO.
Qui a été cancel, d'ailleurs.
FPS. Et en fait, pour faire en sorte que les raids en FPS restent précis et jouables, parce que c'était pas possible en MMO, ils avaient séparé le MMO en deux littéralement, et t'avais une partie MMO où tu te baladais dans des villes et t'avais ton activité le jour, c'était une sorte de Sony PlayStation Home, et quand tu rentrais dans des raids et que tu devais te battre contre des méchants, tu rentrais dans des arènes de
FPS.
C'était
des instances, quoi.
Voilà, c'était des instances fermées avec des règles de FPS classiques qui sont devenues Overwatch. Mais eux avaient dû littéralement scinder en fait le jeu en deux parties. C'est peut-être un des cas de l'échec. Donc, c'est pas possible. On l'a vu avec Star Citizen, ce que nous a montré Star Citizen avec le procédural qui va être, je pense, intéressant, mais en fait, qui va pas casser trois pattes à un canard.
Non, mais par contre, l'aspect dont tu parles, c'est-à-dire réussir à avoir un FPS relativement précis, tout en ayant aussi un simulateur de vaisseau qui soit plaisant à jouer, le tout dans...
Là, sans Star Citizen montre que la partie FPS, elle est très galère et pas très précise.
Ça marche quand même un petit peu. Enfin, je m'attendais vraiment. En fait, je trouve que c'est plus réussi la partie FPS que la partie pilotage dans Star Citizen. Parce que
oui, mais la partie pilotage, elle est bon.
Ouais.
Bon. Pour voilà, dessus, mais... c'est juste que si tu pensais jouer à Code, quand tu vas jouer à la partie FPS Star Citizen, tu vas dire c'est pas Code, c'est vraiment trop chelou, c'est pas fluide, c'est pas précis. Ouais. Quoi. C'est pas satisfaisant. C'est très dur de faire les deux.
Pourquoi vous voulez toujours que ça soit la première personne? Je comprends pas.
Immersion.
Mais non, mais parce que tout le jeu, quoi que Star Citizen, tu peux jouer à la troisième aussi. Hein.
Oui.
C'est juste que t'as pas de réticule.
Ensuite, je me suis rendu compte que bon, déjà, c'était humainement impossible pour des devs, mais c'était aussi assez humainement impossible pour des joueurs à peupler. En fait, c'est tout bête. Deux cas aussi marrants. Un qui vient de 2012. Si je vous dis Amazon Game Studio.
Ah.
Lol, j'ai lu l'article.
Il y a eu l'article absolument incroyable de, sur Wired, de Cécile Anastasio dans Wired qui est sorti hier, qui montrait les ambitions pharaoniques.
Breakaway, c'est ça ?
Ouais, et puis et notamment ce fantasme dont aussi je vous bassine la gueule tout le temps avec le cloud gaming, qui est de dire on aura des instances avec 10-15 000 joueurs en même temps.
La 10K initiative.
Bah, évidemment, donc Amazon Game Studio, donc voilà, 2012 encore une fois, en a rêvé, l'ont jamais sorti et le sortiront probablement jamais. Mais même si on pouvait mettre 10 000 joueurs sur la même instance.
Foutre avec 10 000 joueurs. Ça,
ce, qui, ce qui techniquement aurait pu être possible. On a un autre problème, c'est que 10 000 joueurs, on va pas avoir 10 000 personnes qui font des choses variées, on va avoir 10 000 aventuriers ou 10 000 sauveteurs de la Terre ou 10 000 enfants ou de la prophétie, ou, enfin des gens qui sont là pour faire des trucs incroyables. C'était le problème d'ailleurs qu'avait Star Wars, c'est que tout le monde voulait être un Jedi. Personne n'avait envie d'être un fermier sur Naboo. Évidemment.
Alors que
d'Az.
franchement.
Alors que on s'est rendu compte que dans un jeu annoncé fin 2011 et sorti fin 2013, GTA 5.
Ah.
On s'est rendu compte sur le tard que le RP était intéressant, mais à petite échelle. C'est-à-dire qu'en fait, le RP de GTA 5, on s'est rendu compte, tiens, c'est intéressant, tu peux peupler un monde avec des gens, avec des trucs qui font des choses différentes. Donc du coup, tu peux jouer le jeu rôle du justicier et puis rencontrer quelqu'un qui va pas être un justicier mais qui fait autre chose, mais ça reste du RP, ça reste très limité quand même.
Tu parles de GTA Online là.
GTA Online, évidemment.
GTA 5 je me suis fait tuer au bout de 3 secondes en achetant un t-shirt, donc je pense que.
Donc je me suis rendu compte que. Voilà,
c'est rigolo. Hein.
Même ouais, le problème, c'est que même si on arrivait à peupler des serveurs avec des milliers de joueurs pour mes fantasmes de scènes de jeu, en fait, tout le monde voudrait être pirate. Qui a envie d'être un pauvre pilote de fret qui se fait braquer toute la journée, à part Daz encore une fois.
Daz et l'Allemagne.
Non. Et là, il y a par exemple dans Flight Simulator, il y a des gens qui font le trafic aérien, le contrôle aérien.
Oui, mais parce qu'ils peuvent rien faire d'autre.
Bah non, mais ça veut dire que
si dans Flight Simulator, tu peux tirer sur des gens ou défendre des gens, les gens ne feraient que ça.
Moi, je suis persuadé que si tu offres des incentives intéressantes à être tavernier, par exemple, sur une planète, un outpost à la con, et en fait, toi, tu te contentes de vendre les bières aux pilotes qui viennent livrer des trucs, je te jure, ça peut être sympa.
Mais je trouve
en gestion.
On devrait pouvoir jouer un steward dans Flight Simulator.
Moi, j'ai ma femme. Elle est chef de cabine.
Bon. Voilà. En tout cas, je me rends compte que cette histoire, elle est humainement impossible pour les devs, assez humainement injouable pour la réalité des joueurs. Et par contre, techniquement, il y a des choses qui avancent avec notamment le cloud gaming. Je vous parle d'un jeu qui est né, dont le projet a été greenlighté en 2014.
Oula.
Donc on est pas loin de 2012. Flight Simulator.
Ouais.
À l'époque où Asobo a fait les HoloTours pour Microsoft, pour les HoloLens. Donc Asobo voilà, faisait ça pour eux. Microsoft a dit, mais attends, mais on tient un truc là. Et là, il y a des jeux, réalité augmentée, Bing, machin, etc., etc. Et puis en fait, ils ont greenlighté le retour de Flight Simulator avec Asobo en 2014. Et effectivement, aujourd'hui, Flight Simulator est le jeu qui, à sa manière, mais pas entièrement, nous rapproche de cette échelle 1-1, peuplée de manière réaliste, qui consiste en fait à scanner.
Pas entièrement, je sais pas
scanner
comment.
Des choses,
c'est absolument entier.
Oui.
C'est un jeu qui, je le dis, hein, Flight Simulator, honnêtement, c'est le premier jeu vraiment où j'ai vraiment l'impression d'être dans le futur. Voilà.
Ouais.
Si vous avez jamais joué à un truc comme ça.
Une seule fonction dans le jeu.
Voilà. Et puis ça reste
oui, voler avec des avions. Quoi.
Oui, ça reste, oui. C'est pas voler avec des avions, c'est un jeu d'avion.
Oui,
tu es un avion.
Voilà, tu es un avion. Allez, d'accord, tu es un avion.
Tu es un avion. Donc,
tu es
le
un
jour
avion.
Où dans Flight Simulator, on arrive au niveau d'un vrai Street View et on peut y aller à pied. Parce qu'il y a des technologies, qui vont se développer pour, je pense.
Mais la question, c'est ludiquement parlant.
Oui, ça n'a pas.
Pourquoi faire ?
Non, je parlais juste de techniquement, ça
juste
devient possible.
Juste l'échelle. Ouais, d'accord.
Okay. Oui. En fait, on est en train de se dire, ok, entre le procédural, le semi-procédural qu'on a et le scan satellite, etc., et aussi les technologies notamment d'Nvidia. Tu dis Nvidia, crée-moi une ville, un niveau de jeu à la New York. Et l'intelligence artificielle de Nvidia comprend et va te créer une ville qui n'est pas New York, mais qui reprend des codes de New York, les taxis jaunes, les gratte-ciels, les machins, etc., etc. On s'approche de ces choses-là techniquement.
Voilà. Les outils vont être disponibles. Ouais.
Donc en fait, à la fin de cette décennie, en fait, cette génération de 2012, elle aura abouti à techniquement quelque chose qui théoriquement pourrait nous approcher du Graal. Mais en fait, on se rend compte qu'humainement, c'est pas vraiment possible. Et je termine avec un dernier jeu qui a été présenté et lancé en 2012.
Oh là là.
Et qui pour moi s'approche le plus de mon fantasme.
Oula.
Qui est des scènes d'action et un jeu d'action très précis avec notamment des batailles de vaisseaux à grande échelle et les deux interagissent.
Quoi ? En 2012
il existe en 2020, il marche très bien.
C'est pas EVE Online ?
Non, c'est pas EVE Online.
Attends, avec des batailles pied à pied FPS ?
Ouais, et des batailles de vaisseaux.
Tu montes dans un vaisseau
C'est Warframe.
Ah oui. Oh putain,
ouais. Warframe qui a été donc lancé, présenté en 2012. C'est un jeu qui s'appelait Dark Sector qui était porté par le studio depuis des années, personne n'en voulait. À la fin, ils ont quand même fait leur jeu de ninja de l'espace. À la base, c'est un TPS, un shooter looter en TPS, sauf que là, dernièrement, ils ont lancé une mise à jour qui te permet de faire des batailles de vaisseaux entre vaisseaux et dans les vaisseaux. Et ils ont fait une technique qui est hyper intéressante, c'est qu'ils ont créé deux instances qui communiquent entre elles. Et en fait, quand tu sors du vaisseau, tu prends comme une warp zone, en fait. Et donc, en fait, c'est comme si tu avais deux jeux qui jouaient en parallèle, qui ne sont pas le même jeu, parce que comme ça, ça te permet d'avoir ce TPS très précis où tu fais des critiques, tu vises la tête, et au pixel près, tu fais tes roulades cheloues de Warframe dans tous les sens, etc. Dans un vaisseau qui, lui, réagit à ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est un tricks de prestidigitateur. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir une partie intérieure.
C'est pas du ouais, t'es pas full temps réel avec
t'es ce pas full passe... temps réel. D'accord. Mais c'est une illusion intéressante parce que du coup, t'as des shoots hyper intéressants et puis en même temps, t'as des vaisseaux qui se fightent entre eux et qui te communiquent leurs conditions.
Pour les fans de science-fiction, précisons quand même que Warframe a un design
oui, c'est assez
très
spécial.
Spécial manga psychédélique.
Manga, ouais. Mais sur Wish, quoi.
Ouais, j'allais dire Jojo's Bizarre Adventure.
Il y a des gens qui sont fans du design de Warframe.
Ah bah si, quand même. Hein, non, c'est...
plus Wish.
Mais en tout cas, voilà, ce qui m'étonne, c'est que finalement, le jeu qui se rapproche le plus de ce que je voudrais, c'est un jeu qui a été lancé en 2012, dans l'ombre de la génération 87 du jeu vidéo, qui s'appelle Warframe. Mais voilà, en tout cas, à la fin, je suis content de me dire que l'immensité des effets d'échelle, c'est techniquement possible dans cette décennie 2010. Mais il faudrait attendre encore peut-être encore une décennie pour avoir peut-être une bonne expérience vidéoludique et qui techniquement est au point. Et deux décennies pour un tel Graal, je pense que ça vaut le coup d'attendre.
Très bien, on verra si on vivra assez vieux, en tout cas pour connaître ça. Est-ce que c'est un genre de jeu qui vous fait vraiment fantasmer, ces jeux infinis par leur grandeur?
Dois-je répondre à cette question?
Bah,
moi
oui.
J'ai une réponse en 3 points.
Ouais, fibre.
Ah, là, ça commence.
Le retour de la réponse en 3 points.
Allez, vas-y.
J'ai oublié mes points, mais...
Quel escroc.
Non, si, c'est ça. Premier point, si vous devez organiser une soirée, genre une soirée dansante, par exemple, vous allez louer un espace... Et s'il n'y a pas assez de gens dans l'espace, la soirée elle va être à chier parce qu'il y aura 3 personnes dans un coin.
C'est clair.
S'il y a trop de gens, la soirée elle va être à chier parce qu'il y aura trop, vous serez tous compressés.
Ça dépend.
Et en fait, le problème de la création de jeux infinis, on la prend à l'envers. C'est-à-dire que quand tu dis, je te promets qu'il y aura une surface de 1 million de kilomètres carrés, mais s'il y a 4 joueurs, ça va être mort. Et inversement. Et ça, il n'y a personne qui s'est posé en disant. Et si on faisait une surface de jeu qui était proportionnelle au nombre de joueurs actifs? C'est tout simple.
C'est pas un Battle Royale ou Fall Guys, hein. Voilà. Mais effectivement, c'est beaucoup plus restreint. Ouais. Mais déjà, les premiers Battle Royale m'avaient foutu un peu le vertige. La première fois que je jouais à PUBG, je fais « Oh, c'est des kilomètres carrés !»
On a fait une chronique.
Le deuxième point, c'est que en fait, la vertical slice du rêve de l'âme, c'est-à-dire la preuve de concept, c'est le fameux Star Citizen. On s'aperçoit que c'est chiant.
On
s'aperçoit que prendre l'ascenseur, c'est chiant. En fait, on s'aperçoit que faire un miroir de la réalité, c'est chiant parce qu'on joue pas.
Oui, mais là, c'est un autre sujet. L'âme, il parle, lui, des trucs à grande échelle et à petite échelle. Les mecs de Star Citizen, en plus, ils ont décidé de rajouter une couche de routine relou. Mais ça, c'est.
Ouais, mais quand l'âme, il se fait son film, tu sais, on est caché dans les astéroïdes, tout ça.
Ouais.
Lui, en fait, il fait son film en super cut, un Star Wars, tu vois. Mais en vrai, quand on le fait seconde par seconde, où ça fait 12 minutes qu'on essaie d'intercepter le truc, et que lui, il est coincé dans son truc, et ben ouais, c'est relou.
Mais c'est génial.
C'est ça le truc.
Non, ça, c'est génial.
C'est ça le truc.
Dans la vraie vie, c'est chiant. Dans le jeu vidéo, ce serait chiant pareil.
Voilà. Et le troisième point, et je pense que. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, c'est que l'échec de la génération procédurale de No Man's Sky est la suivante. C'est que le jeu vidéo, c'est le seul secteur au monde, historiquement, où quand on a de la thune, en fait, on passe pas par la génération procédurale, on passe pas par l'industrialisation. Par exemple, en fait, quand tu fabriques des chaussures à la main, à un moment, tu as beaucoup d'argent, tu prends une usine et tu as des mecs qui les font par centaines. Et bien, dans le jeu vidéo, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait Elder Scrolls, Daggerfall, tu avais un logiciel qui faisait plein de villes virtuelles, comme le fait aujourd'hui un peu Star Citizen, mais c'était en semi-2D, c'était en 3D pourri, quoi. Et quand les gens ont eu de la thune, ils ont dit, vous savez quoi, on va prendre des humains et Morrowind. Le moindre caillou va être posé par un humain. Et ce qu'on veut dans Morrowind ou dans Skyrim et dans ces jeux-là, c'est on veut que quand il y a un caillou, quand il y a une montagne ou un nuage, on veut que ce soit un humain qui l'ait posé parce que c'est ça l'art. L'art, c'est pas regarder la Joconde, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et surtout, ce sont des humains, pas des équations mathématiques. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et je pense que les millions de planètes d'élite, effectivement, au bout d'un moment... Les milliards, elles ont été générées par une équation mathématique et on s'en branle un peu, en fait. En vrai.
Alors voilà. Oui et non.
Je suis 1000% d'accord avec toi.
Ah ça me surprend pas. Tu
voilà. Ah mais oui, mais de toute façon, moi, c'est... Enfin, je me souviens de toutes ces annonces de jeux. Alors, c'était mon esprit ultra cartésien, ultra rationnel, mais je me disais... Mais c'est du bullshit, ça. Enfin, jamais, c'est pas possible. On n'a pas le... Techniquement, on peut pas. C'est pas réalisable.
Et pourtant...
Ouais, mais bon, enfin, quand, tu vois, quand, justement, vous parlez de No Man's Sky, quand c'est sorti, c'était quand même pas...
Oui, mais quand, No Man's Sky est sorti cassé, il y avait déjà Elite Dangerous qui fonctionnait parfaitement.
Ouais, mais tu vois, enfin, je me dis non, mais en fait, c'est bullshit, enfin, tu vois, ce type de promesse. Et je préfère très largement à ce type d'univers infini, etc., avoir quelque chose...
Plus petit.
Plus petit, qui soit... bien fait, comme tu dis, à la main, même si, bon, maintenant, dans les générations d'open world, il peut aussi y avoir un peu d'aléatoire,
bah,
etc.
Ouais,
mais,
oui,
mais, vite fait,
ouais. Un petit Blizzard, peu, toi, oui, pour, voilà, ça, pour ouais. que ça aille un petit peu plus oui. vite. Mais je préfère, tu vois, bah, alors, j'ai utilisé un mot qui ne va pas, mais toi, qu'il soit plus artisanal, qu'il soit humain.
Aussi, t'as fait, c'est le mot parfait, en fait. Mm. Moi, je suis d'accord avec toi, procédural doit être, d'avoir aidé les artistes, en fait.
C'est très limité, parce que l'open world, qui va peut-être être le plus... abouti et détaillé de l'histoire, ça va être Cyberpunk, et Cyberpunk, ce sera même pas une ville complète.
Ouais,
parce que tu peux pas peupler aujourd'hui humainement une ville.
Non, mais après,
là, fantasme encore sans.
Non, mais là où je rejoins Chloé, c'est qu'effectivement entre 400 milliards de systèmes stellaires que t'as dans Elite, où évidemment en fait c'est du full procédural, même si l'équation mathématique qui génère les planètes est ultra forte et les fait réellement avec toutes les conditions qu'on connaît dans la science et dans l'astrophysique actuelle.
Et dans Elite, t'as aussi toutes les planètes observées par l'homme.
Oui, en plus, oui, tout ce qui est observable est dans le jeu, et après, pour le reste, ils ont pris les équations.
La science, comment ça ?
Ben, en fait, les mecs qui ont fait Elite, c'est des sciences nerds, mais de ouf.
Ouais.
Et ils ont rentré en fait, dans ce qu'ils appellent la Stellar Forge, qui est le moteur de génération des systèmes. Ils ont rentré mais toutes les équations connues, toutes les hypothèses connues au niveau de l'astrophysique, qui fait que le moteur, après, quand ils leur disent « tu génères un système à partir d'une géante gazeuse dans tel cadran de la galaxie », il va te dire « bah alors, par rapport à ça, on devrait avoir ça ». Ce qui s'est passé, c'est que la planète Kepler, je sais plus combien, qui a été observée par la NASA, les mecs sont allés dans Elite et ont trouvé une planète très ressemblante, à peu près au même endroit.
Et ça simule les taux d'attraction des planètes, ouais, en fonction fait, du ouais, poids.
Bien sûr, bien sûr.
Ça simule tout. La gravité dessus, ouais. Ça simule
le noyau plutôt métallique, magmatique, etc.
Ça simule la folie, théorie de la relativité tout. Avec le temps qui passe, pas pareil.
Non, pas ça.
Non, ça tu l'as pas, parce que tu te déplaces toi-même à des vitesses qui sont supraluminiques, de toute façon.
Sinon le jeu serait injouable.
Donc enfin, en fait, toi, t'es jamais, tu laisses jamais ta famille sur Terre pendant que tu traverses la galaxie, mais en gros, tu traverses la galaxie à... 2000 fois la vitesse de la lumière, en fait. Donc finalement, le temps s'écoule de la même manière pour tout le monde, sinon c'est plus un jeu.
Mais,
tu vois
ouais.
Mais par contre, tout ce que tu connais en astrophysique moderne est représenté.
Pour revenir sur le thème, tu vois, t'aimes beaucoup Flight Simulator, mais je pense que si on faisait un Flight Simulator qui se passait sur une autre planète, c'est-à-dire t'as les mêmes décors en gros, mais c'est une autre planète, en fait, on s'en foutrait. Parce que ce qui est kiffant dans Flight Simulator, c'est que tu survoles la maison de Ken Bogart.
Non.
Tu recevras la maison qui existe vraiment.
Ça, c'est ce que tu penses être kiffant.
Mais ça, c'est trop bien.
Avant de jouer au jeu. Ouais. Et en fait, quand tu joues au jeu, t'en as absolument rien à foutre. Moi, je me retrouve à faire des trucs, j'ai jamais visité les bleds. Je serais
ouais,
sur Mars.
Mais ça existe.
Oui, mais en fait, je serais sur Mars, ça serait pareil.
Ah, non, je suis pas d'accord.
Je me souviens de ta dernière chronique où tu avais dit un des premiers trucs que j'ai fait avec Flight Simulator, ça a été de survoler mon immeuble, ta maison.
Ça, je l'ai fait. Mais une fois que tu l'as fait, tu pourrais dire bon, ben puisque je l'ai fait, je le fais plus et j'arrête de jouer, en fait. Et en fait, tu te rends compte que l'échelle du jeu est telle que c'est ultra cool de dire allez, aujourd'hui, tu vois, la dernière fois j'étais en stream, j'ai dit allez, on part de Emerinville dans le 77, on va essayer d'atterrir à l'Alpe d'Huez avec le temps de merde qu'il y avait là.
Formidable.
Donc j'ai failli me taper les montagnes à l'arrivée parce que je les voyais pas,
ouais.
Et parce que j'avais pas respecté les couloirs d'approche, etc. Et c'est génial, j'ai jamais foutu un seul pied à l'Alpe d'Huez.
Ça s'appelle pas Ken Bogart Station, tu vois.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de te dire que t'as un terrain de jeu qui est immense.
Ouais, mais c'est un terrain de jeu réel.
Mais tu vois, ça reste du Elite. Par exemple, l'échelle d'un avion, tu te balades, tu admires. Moi, j'adore dans Elite admirer les systèmes solaires que je traverse ou voler autour de Jupiter. En disant, ouais, c'est émouvant. Mais l'échelle, elle est très limitée.
Ce qui est génial dans Elite, c'est que justement, c'est tellement grand que tu peux avoir ce qu'ils appellent la bulle dans le jeu, c'est-à-dire une poche d'humanité. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu zoomes en arrière et que tu regardes la galaxie, puisqu'elle est à l'échelle 1, tu te rends compte qu'effectivement, ce qu'on a découvert en tant que joueur, je crois qu'on doit être autour
0,042%.
Voilà.
Oh là
et en fait, tu te rends compte qu'il y a une bulle d'activité humaine qui est perdue dans l'immensité du truc. Et de temps en temps, quand t'as vraiment des points qui sont intéressants, tu vois une petite bulle popée aussi, parce que tous les joueurs vont là-bas. Et entre les deux, il n'y a rien. Et c'est génial, en fait, de se dire que pour toi, il n'y a rien, mais en fait, il y a quelque chose, il y a des choses à visiter. Mais à ton échelle, c'est insignifiant.
Mais elles ont
été
créées par une équation mathématique.
Mais ça a été créé complètement par une équation mathématique. Mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est juste que là, le parti pris qu'ils ont pris, 400 milliards de systèmes, tu peux pas les faire à la main. En revanche, effectivement, Star Citizen, où ils avaient prévu 100 systèmes à la main.
Mais 100 systèmes, mais une planète, une ville, en fait, c'est pas possible.
Non, mais ça dépend ce que tu prends comme échelle. On sait, par exemple, que l'échelle des planètes dans Star Citizen, c'est une échelle au 1/8, je crois. T'auras jamais une planète taille la Terre.
Mais c'est pour ça, BGE 2, il rêvait de faire une planète avec des villes qui avaient chacune une ambiance différente, un truc. Enfin,
Ça, tu peux l'avoir, mais après, il faut pas oublier qu'en plus de générer procéduralement les environnements, ils génèrent procéduralement les PNJ aussi.
On est sur le procédural. Tu disais, Chloé, que ce serait peut-être pas possible de faire tout ça. Et tu parlais de ton esprit cartésien quand tu disais que c'était pas possible. En fait, un esprit cartésien, je pense qu'il va pas se poser la question de c'est pas possible. Il va pas se dire c'est pas possible. Il va se dire comment on peut le faire. Et je pense que la véritable question, c'est comment on peut le faire. Est-ce qu'on peut le faire avec les moyens d'aujourd'hui? Et si on ne peut pas les faire avec les moyens d'aujourd'hui, comment on peut développer des moyens pour pouvoir le faire? Moi, je pense que ce sera possible, tout ça.
Je ne dis pas dans le futur, bien sûr, mais moi, je me remets dans en 2012. En 2012, je me disais, mais ça pue l'arnaque. Enfin, ouais. C'est juste
après,
pas possible.
Non, mais la vraie question, c'est... Après, une fois qu'on l'a fait, est-ce que c'est intéressant?
Exactement.
Et c'est là que tu te dis...
Bah,
tu vois,
c'est ma chronique, en fait. C'est que, techniquement, on touche du doigt le truc. Parce que Elite s'en approche, No Man's Sky s'en approche, Star Citizen, sa manière, s'en approche, BGE 2, on ne sait pas, Flight Simulator, sa manière, s'en approche. Donc, techniquement, on touche au possible. Là, effectivement, du coup, maintenant, je me dis, en fait, est-ce que c'est vraiment intéressant?
Exactement. Là, on a parlé pendant toute cette chronique de jeux infinis. Mais vous ne parlez finalement que de jeux de taille infinie.
Ouais.
Et si on parlait plus de jeux de temps infini? De jeux dont on peut passer un temps infini? De jeux avec une rejouabilité qui est ni plus ni moins qu'infini, mais ces jeux existent déjà.
Oui, c'est
ces jeux
là, il va nous parler de Tetris et de Pokémon.
Non, Minecraft, rien que Minecraft. Ces jeux ont un intérêt énorme et existent déjà. Et il n'est pas nécessaire de créer une échelle gigantesque pour créer des jeux infinis.
Si, parce qu'en fait, il y a une notion que moi, c'est la notion qui me fait le plus triper en fait, et qui me donne le vertige quand j'y pense, c'est que moi, je peux passer 1200 heures sur un jeu où toi, si tu vas là où je suis, tu me verras. Mais par contre, toi, tu peux passer 1200 heures sans même savoir que j'existe à côté de toi, en fait. Mais pourtant, on est tous connectés ensemble, tu vois. Moi, le fait de me dire...
Mais je m'en fous.
Bah ouais, mais moi, je trouve ça cool, en fait. Je trouve ça vertigineux. Je trouve ça vertigineux de dire, je vais dans un truc, je décide que c'est chez moi. À partir de maintenant, c'est là que ça sera mon système foyer, tu vois. Et en fait, je vais faire tout mon jeu autour de ce truc-là, qui, en fait, pour un mec comme toi, sera peut-être juste un point de passage... dans une mission qui t'amène à l'autre bout.
Là, tu me parles du monde réel, en fait.
Non, mais... Bah ouais, mais je trouve ça génial. Ouais,
Regarde, je lance des parties de Fortnite. Et je ne joue qu'à Fortnite. Et toi, bah, tu joues à Fortnite aussi de temps en temps. Et là, je ne sais pas, un jour, un seul, bah, on va se retrouver sur la même map à faire...
Non, c'est pas pareil. Là, pareil de chose, parce que Fortnite...
Fortnite,
c'est pas persistant. C'est une partie qui est lancée en instant.
Mais surtout, encore une fois, Fortnite, même si c'était à l'échelle d'une planète, c'est pas que l'échelle. Fortnite n'est qu'à...
Il n'y a pas de monde persistant dans Fortnite.
Non, surtout, il n'y a qu'une dimension dans Fortnite. C'est la dimension de personnes avec des flingues et avec des construits. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment, on dise « Vas-y, Chloé, bouge le vaisseau !» Parce qu'en fait, on est 100 dans un vaisseau, imagine. On est 100 dans un vaisseau et sur les 100, il y en a 70 qui vont essayer de l'entretenir parce qu'on s'est attaqué dans tous les sens. 70 qui vont prendre des chasseurs individuels qui ont machin et Chloé qui doit gérer un truc qui fait 8 km de diamètre, etc. etc. tous ensemble.
C'est une différence
et où chaque action
en fait.
De l'un joue sur les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, si Chloé se bouffe un astéroïde, tout le monde tremble, on se fait envoyer chier. Ou si à un moment, moi, je m'éclate dans le poste de pilotage d'un vaisseau adverse, je fais exploser, etc. C'est ça que je veux en fait. C'est pas l'idée. Je veux pas juste, en fait, dans les jeux dont je parlais, c'était pas que des jeux immenses. C'est pour ça que je reproche à Elite d'être un jeu de vaisseau, c'est-à-dire d'avoir qu'une échelle, en fait, même si t'as des vaisseaux de 20 mètres de long comme des vaisseaux de 2 km de long. L'idée, c'est vraiment de se dire, tu peux te sentir fantassin ou te sentir général ou dieu, mais qu'en fait, on est tous des interactions les uns avec les autres et que les actions des uns soient ressenties par les autres.
Mais tu tiens un jeu, fais un jeu qui fait ça. Bah, pourquoi tu veux faire un jeu qui fait ça?
Star Citizen, c'est ça.
Ah oui, c'est ça.
C'est l'objectif de Star Citizen, c'était l'objectif de Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil, tu les vois, tu te fais au corps à corps dans un temple, tu voles un trésor, tu prends un scooter, tu zigzags dans la ville, un mec te rejoint sur les sauts, vous êtes à deux,
Star
il chute sur des mecs, tu montes, tu sors de l'atmosphère,
bien.
Tu rejoins ton vaisseau mère. J'imagine que ton vaisseau mère, elle est énorme avec tous tes sauts et tu t'enfuis vers une autre planète. Là, t'as différentes échelles en fait.
Star Citizen fait ça bien parce que un vaisseau dans Star Citizen, on va prendre un vaisseau lambda, genre celui que j'ai qui a 4 places, tu vois, donc tu peux t'asseoir à 4 officiellement. mais rien ne t'empêche de prendre 50 mecs avec toi et de les foutre dans la soute, en fait. Tant qu'ils sont collés les uns aux autres, c'est pas un problème. Tu vois, c'est-à-dire que t'es pas limité.
Ouais.
T'es limité vraiment par la physique du jeu. Au bout d'un moment, bah, le 51ème, il peut plus rentrer. Il y a juste plus de place pour mettre des gens. Mais si tu réussis à rentrer un buggy dans un vaisseau qui était pas prévu pour avoir un buggy au départ, si t'as réussi à le faire, il y a un petit côté Breath of the Wild là-dessus. Tu vois, c'est genre, tu joues avec la physique du jeu.
Mais
t'essaies de faire rentrer
c'est,
des
c'est
trucs.
C'est très permissif d'ailleurs,
c'est
parce qu'il est mal codé.
Oui. C'est pour ça que GTA des fois m'éclate parce que tu peux avoir des légers effets d'échelle où un mec qui saute d'une montagne et qui tombe en base jump peut retomber sur un autre gars qui est en train de foncer avec un tank à travers la ville, etc. Il y a un peu ça. Je veux juste ça en beaucoup plus grand. Je veux avoir quelqu'un qui a un jeu de gestion de stratégie et quelqu'un qui a un jeu de gestion de simulateur de vaisseau à grande échelle et quelqu'un qui est un fantassin dans un FPS qui sont dans le même monde et qui interagissent avec
après,
les autres.
Les temporalités ne sont pas les mêmes. C'est le seul problème, en fait.
On verra, en tout cas, si ça se réalisera sur la raison. À ton avis, ça va arriver ?
Ils vont tenter. Il y a des studios comme, je pense...
Qui sera le premier à toucher
Moi, je pensais que c'était Stadia.
Le Grag.
Très à l'époque, ils ont annoncé Stadia. Je te dis, c'est eux qui vont être les premiers à le faire parce qu'ils ont Stadia Studio et ça va être les premiers à faire la première exclue cloud gaming, dont des jeux qui peuvent être gérés que parce que tu as 10 000 personnes
sur
des data centers,
mmh.
Qui ne peuvent pas tourner sur ta machine et tout le monde... Enfin, un réseau local de 50 000 personnes avec des machines gaming, ça n'existe pas. Eux, ils peuvent le faire. Et donc on sait maintenant qu'Amazon voulait le faire. On en parlait avec Christophe de Shadow à l'époque. Christophe disait, ben, un jour on rêve de faire ce genre de truc. Je pense que c'est beaucoup trop puissant pour pas être tenté. Et d'ailleurs Amazon l'a tenté.
Oui.
Donc j'y crois. Et je pense qu'il y a un truc est génial à faire. Si un jour tu me dis, tu vois, tu me parlais de Sea of Thieves juste avant la chronique Fibre. Sea of Thieves, c'est ça en mini. Mais il y a de ça. C'est qu'en fait le monde aussi, en fait, il est un peu ridicule, le monde de Sea of Thieves, en fait.
Ouais,
il est un peu tout petit. Mais t'as un côté, tu peux diriger un bateau pendant que tes potes ils plongent pour essayer d'aller à l'abordage d'un bateau suivant ou de choper un trésor sur une île. Ils se font courser par des squelettes,
mais
tu vas les chercher.
C'est ce que t'as dans Battlefield quand toi t'es dans un hélico et que tes potes descendent.
Voilà. Donc ça tu l'as, mais
à l'échelle d'une map. Donc voilà, oui, c'est un peu plus.
Là, c'est vraiment une.
Sea of Thieves, c'est pas mal, tu vois. Sea of Thieves, je trouve ça pas mal.
Vraiment des rêves de grandeur. Faut que tout soit grand.
Je verrais bien un jeu très abstrait, très simple. Dans lequel en fait les joueurs n'auraient pas la même vision, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y aurait un général qui verrait.
Bah ça c'est Battlefield.
Battlefield l'ont tenté avec le
2 ou 3.
Avec le Commander View.
Ouais, Commander Mode.
Nous on avait un pote, on jouait avec des fantassins, puis on avait un pote qui avait une vue de dessus et
qui donnait les objectifs.
Il disait attention, je vois des points qui arrivent sur l'entrepôt, je vais vous dropper des munitions par là. Et lui il avait des refreshs, donc il jouait un jeu de stratégie et ce qu'il envoyait, nous on le recevait quoi.
Le problème c'est que le commander qui s'arroge le rôle de commander mais qui sait pas commander, et c'est le problème de tous ces jeux où t'as des rôles. Quand les gens sont pas au courant du rôle qu'ils occupent, bah du coup, ça nique la partie.
Après, visiblement, la meilleure façon de jouer aux jeux que vous êtes en train de fantasmer, c'est de les fantasmer et de faire du jeu de rôle avec, justement. Donc arrêtez de vouloir des jeux vidéo sur des jeux que vous pouvez faire en jeu de rôle. Ce sera beaucoup plus simple et moins cher, surtout. Hein. Fibre vous concoctera des bons scénarios, bien entendu. On va marquer une pause un tout petit peu pour parler d'un autre sujet. À savoir, on a beaucoup parlé de la taille du stockage en ce moment, qui devient un problème de plus en plus important parce que les jeux sont de plus en plus gros et avec l'arrivée des consoles 4K, ça va pas malheureusement se terminer. En plus, on nous vend des consoles avec des tailles de SSD, mais vraisemblablement, on a le droit à 200 gigas de moins que la taille installée en version effective. Donc, on va commencer à être très très à l'étroit sur les consoles de nouvelle génération. Du coup, Fib, t'as une petite idée qui est assez intéressante hein, puisque on est tout le temps, enfin moi je lis ça tout le temps hein, sur jeuxvideo.com, mais à quoi ça sert de toute façon de laisser
très
installer les jeux,
très belle interprétation,
d'ailleurs personne n'utilise plusieurs jeux sur son truc mais personne n'a des problèmes de place, un terrain ça suffit, voilà, vos gueules. Non, ça ne suffit pas, non, on a des problèmes de place même avec un terrain et du coup cette nouvelle génération risque d'être exactement pareil, quel jeu vous avez laissé le plus longtemps installé sur vos disques durs ?
Intro la plus longue pour une pause incroyable. C'était ta chronique en fait.
J'avais envie de coup de gueule.
C'était surtout ça.
Oui, alors quel jeu installé quel jeu reste sur notre disque dur depuis des temps immémoriaux ?
Quel jeu il reste là sur le disque dur ?
Vas-y Chloé, à toi.
Chloé.
Alors, je réfléchis en fait à cette question depuis le début de l'émission, même avant. Non, parce que moi j'ai une PS4 500 gigas, donc autant dire que je dois souvent éliminer des jeux. Et notamment, plus c'est gros, en fait, c'est ceux qui dégagent les premiers, parce que il faut faire de la place. Alors, ceux qui sont toujours là, en fait, alors il y en a un qui est toujours là, mais alors c'est pas lié à moi en fait, c'est Undertale. Pourquoi ? C'est parce que c'est ma nièce qui adore Undertale et qui, dès qu'elle vient chez moi, elle veut jouer à Undertale et donc en fait, elle a sa partie sauvegarder. Voilà, donc je laisse tout le temps Undertale sur la PS4. Et sinon, j'ai réfléchi, il y a un autre jeu. Alors, j'ai fini par le retirer il n'y a pas très très longtemps, parce que je m'étais fait quand même une idée. C'était... Ah oui, j'avais téléchargé Heavy Rain et Beyond Two Souls à l'époque où c'était gratuit, je crois, avec le PS Plus, en me disant, je vais peut-être me les faire. Et en fait, non. Mais je me suis dit, bon, je me suis fait chier les télécharger, donc il va quand même.
C'est grave parce qu'ils sont restés des années et tu les as même pas utilisés, quoi. C'est vraiment.
Mais en fait, c'est ma nièce qui a lancé Beyond Two Souls, voilà, qui a trouvé ça cool. Et, mais sinon, ouais. Et une fois, je me dis, non, mais je vais pas les effacer, je les ai pas lancés. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai quand même dû passer.
Tu vois, c'est très cohérent. Tu t'es fait chier les télécharger, tu vas te faire chier tout court avec.
Bon, moi, je réponds rapidement. Sur Switch Tetris 99, je le désinstalle jamais. Sur PlayStation, il y a 6 jeux de combat que je désinstalle jamais. Je vais pas vous les citer, mais
si,
on a
ça serait intéressant quand même.
Il y a Street Fighter 5, il y a Dragon Ball Fighters, il y a Tekken 7, il y a Garou Mark of the Wolf, il y a Grand Blue Fantasy Versus.
Il n'y a pas un Tekken, tu l'as déjà dit.
Ouais, et Tekken.
Il n'y a pas King of Fighters ou Another Realm.
Non, et le dernier, c'est Under Night in Burst. Voilà, c'est des jeux que je ne désinstalle jamais.
T'as encore
toujours
de la place, du coup, sur ton disque dur.
Ça pèse
rien. Les jeux de combat sont.
Ouais,
Street Fighter 5.
Tekken aussi. Hein.
Tekken aussi. Ah ouais, ils sont gros. Ouais, c'est Tekken. Dis-toi que c'est 300 gigas utilisés. Non.
Bah, parce qu'il a téchiré tous les costumes de Yankee aussi.
Non.
Il a téchiré tous les costumes bikini de la plage.
Les 6 jeux, c'est 300 gigas de prix sur mon disque dur. Je les désinstalle jamais parce que c'est des jeux, j'apporte ma PlayStation partout et on change ces jeux-là quasiment tout le temps.
Non, mais Garou, par exemple, il doit faire 30 mégas.
Garou, c'est 230 mégas.
Ça rentre sur une cartouche.
Et sur Xbox, c'est Forza Horizon 4. Je désinstalle jamais ce jeu.
C'est vrai.
Je le laisse tout le temps installé dans le jeu. Voilà.
Moi, le plus long, c'est Dota 2. Et c'est intéressant parce que je ne joue plus à Dota 2 depuis quelques années. Mais je regardais les matchs d'e-sport dans le jeu. Le jeu, c'est un modèle du genre pour ça aussi.
Ça, c'est
absolument
beaucoup,
incroyable
ça.
Parce que tu peux regarder les matchs sans passer par Twitch. Donc, comme tu es dans le jeu lui-même, c'est magnifique.
Tu peux tourner autour des trucs et
alors,
tout.
Déjà, tu peux aller où tu veux. Tu peux littéralement regarder le POV de chaque joueur. Donc, tu peux voir sa souris, là où il clique, comment il regarde de manière hyper rapide chaque lieu, comment il va vite et tout. Donc, c'est absolument génial. Tu peux choisir le fog of war de l'équipe, du joueur, de voir tout. Tu peux choisir le POV de chaque commentateur. Donc pour voir comment les observateurs regardent l'action et qu'ils commentent par rapport à ce qu'ils voient, tu peux mixer les deux. Donc tu peux regarder un joueur en écoutant un commentateur. T'as, tous les mecs sont sur la game, donc tu peux avoir les commentaires dans les 8 langues différentes de tous les hommes différents. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc c'est marrant parce que j'ai gardé Dota en disque dur comme un client de spectateur e-sport supérieur.
Ouais, cool,
même pas pour y jouer. Parce que, enfin, si un jour vous avez l'occasion, c'est le meilleur client de l'histoire pour regarder un.
Du coup, tu dois plus facilement comprendre l'action. C'est pas con, hein, franchement.
Ouais, bah, tu peux voir en plus en temps réel, tu peux afficher n'importe quoi. T'as les graphes avec les différentiels d'or, d'XP, les stats de chaque héros, etc. Donc, t'as une expérience littéralement enrichie, le tout pour une bande passante ridicule parce que c'est une bande passante de jeu multijoueur et pas un stream vidéo. Mmh. Donc voilà, donc j'ai jamais désinstallé Dota juste pour ça.
Dota. Fibre.
Alors déjà, à jeuxvideo.com, vous dites pas nanana, vous dites nanani nanana. C'est ce que dit Trunks tout le temps.
C'est vrai.
Oui, nanani nanana. Bon. Alors sinon, j'ai eu cette idée de question parce que je me suis aperçu que j'avais un jeu qui était constamment installé sur ma Xbox 360, puis sur ma Xbox One X, constamment sur le disque dur, depuis 2011. Et je l'ai relancé il y a 3 jours.
Skyrim.
Et j'ai dit, mais putain, ce jeu, quoi. Ouais, Skyrim.
Sûr. Oui.
J'ai relancé un Skyrim, j'ai dit, ouais, ça veut dire faire un Skyrim. J'ai relancé le jeu. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est beau? Et comme je suis suivi par des millennials qui connaissent pas Skyrim parce que c'est un jeu vieux, ok? Ils ont dit, waouh, mais il est beau ce jeu, tu vois?
Comment ça, il est beau?
Alors, parce qu'on peut modder, maintenant on peut modder sur Skyrim, sur Xbox.
Même sur console?
Ouais, sur console. Il y a le mode de Skyrim, alors tous les modes pour le rendre hyper beau, ils sont intégrés dans le jeu Skyrim. C'est-à-dire
mais
que.
Non,
c'est la version ultimate. Quoi.
Non, c'est comme ça. Tu peux lancer. Alors, les succès sont désactivés. Mais en fait, tu as une section mode. Tu t'actives. Et tu as des modes qui font 4 gigas. Hein. Tu as des modes qui rajoutent des continents entiers, tout ça. Donc, j'ai rajouté des modes graphiques. Et le jeu est magnifique. Voilà, le jeu est putain de beau. Le jeu est parfait. Et là, je suis reparti pour 700 heures.
C'est, je vais le relancer.
Ah ouais, non,
tu
c'est incroyable. Non, c'est, tu vois. Non, mais. Et je sais que l'Xbox One X, je jouerai à Skyrim. C'est.
Ouais, c'est X.
Voilà, donc.
C'est horrible, hein.
Non, mais
tout le monde se trompe, hein.
Il est sur Switch, hein. Tu peux tester.
La Wii U.
Ah, il n'y a pas de mode sur Switch.
Il y a pas de mode sur Switch.
Non, par contre, tu payes plus cher.
Alors, j'ai jamais compris. Il va falloir qu'on m'explique un jour pourquoi Skyrim est beau. À chaque fois que j'ai vu ce jeu, je le trouve ultra chum.
Non, sur Switch,
il est pas. Non. Tu joues sur Switch.
Switch. Mais non, je joue pas sur Switch. Que non, je l'ai vu modé, sur PC, modé, sur machin.
Non, non, il est beau.
Donc et t'es obligé de le modder pour qu'il soit beau. Je veux dire, moi, je l'ai vu raw, le jeu, ouais. Sur 18 générations, le jeu est...
Non mais de base ça se passe dans Europe du Nord donc c'est chum, tu vois, c'est comme The Witcher en Pologne,
c'est ça. Ouais. Witcher, il y a des jolis. Non, mais Witcher, t'as des jolis couchers de soleil, t'as des reflets dans l'eau magnifique.
Ah, moi, The Witcher, ça se passerait dans les Bahamas, j'aurais fini le jeu. T'as
plein de graphiques hyper beaux, et GTA V sur PC, désolé, c'est pas le même jeu.
Ouais. Les modes graphiques sur GTA.
Attends, c'est toi qui touches là.
C'est moi qui touche là.
Tu fais un petit info contact.
Ah, excuse-moi. Je mets mon pied.
Mais par contre, moi j'entends bien là. Mais par contre,
c'est surtout ça, non ?
Oui. Ouais.
J'en profite pour dire que juste après cette pause, il faudrait que tu fasses un cut pour la deuxième partie.
Tout à fait.
Attends, parce que j'ai pas répondu.
Enfin, de toute façon, je pense qu'on va faire une partie par chronique vu comment ça s'est
passé.
Ça marche plus.
Coupé par chronique.
Mais en tout cas, on a perdu la MUA parce qu'on a acheté chinois. Et voilà.
Alors attends, pendant que Clam répare son micro, je réponds sur mon jeu à moi parce que j'ai pas répondu.
Mais si, t'as déjà répondu.
Non, j'ai pas répondu. Non, j'ai donné la parole à Claudia.
T'as qu'un jeu et c'est le jeu auquel tu parles dans toutes les émissions, donc on se doute bien.
Comment tu sais que je vais parler de Daytona USA, c'est incroyable. Non, effectivement, il s'agit d'Elite Dangerous que j'ai installé depuis sa sortie.
Sans déconner.
En 2014. Ah bon, non, mais par contre.
Ça fait pas longtemps qu'on a parlé du jeu.
Je l'ai installé sur le disque système. C'est le seul jeu qui est installé à côté de Windows. Tous les autres sont sur un disque à part.
Ah ouais, donc lui, il a une place spéciale dans ton cœur.
Ah, moi, je le veux, démarrage instantané, zéro ralentissement, pas de problème de transfert de données. Et maintenant, l'âme, c'est revenu ou pas ?
Allô, la MUA ?
Non, mais je t'imagine dans... très longtemps dans la maison à ta maison de retraite avec Elite Dangerous.
Mais oui, mais attends, t'imagines, t'as l'univers. Donc potentiellement, je peux jouer toute ma vie.
C'est vrai.
J'ai la galaxie à l'échelle 1.
C'est quelque part, c'est... Oui, bah c'est oui. Vrai, oui. Bah alors après, tu peux lancer Minecraft et jouer toute ta vie aussi.
Non, parce que c'est pas persistant comme je veux. Mais que ça soit persistant.
Tu persistes comme tu veux.
Non, je veux que ça soit un truc... on est tous ensemble.
On est tous ensemble. C'est ça, toi, tu aimes... tous ensemble, mais...
Je veux être seul, mais pas plus... Comme les habitants des grandes villes.
Tous ensemble, mais pas plus de 200.
Je veux être anonyme, mais dans une grande ville.
Tu veux être un Parisien.
Très bien.
Tu veux être Parisien.
Je jouais seul, mais entouré, tu vois.
Ma vie, c'est... Paris.
Alors l'âme, non ? Toujours pas ?
Très bien. L'âme, hein ? Ouais. On fait une pause ? Très bien. Alors on fait une pause, on revient, c'est pas en direct, mais vous le savez maintenant, évidemment.